Wow, Charlie, il est quelle heure là?
Oh putain, mais il est 20h.
Et on est quel jour?
Mercredi.
Et qu'est-ce qu'il y a le mercredi à 20h?
Sur RCN, la boîte de chocolat.
Allez.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler de Tekken, et ça commence maintenant.
Dans 15 secondes, tout ce qui existe sera complètement atomisé.
Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent.
Nom d'une pute, t'es qui, toi?
Je suis une mythe en pull vert.
C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue.
Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça.
Moi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con.
Oh, my generation.
On est mal barré.
Soyons enculés.
Tu es immonde.
Cause this bad boy for life, for life.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette saison 2 qui est la boîte de chocolat. Alors ce soir nous allons parler de Tekken. Alors Tekken c'est quoi? C'est un film d'1h30 réalisé en 2008 par Pierre Morel. C'est avec Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Beckley, John Grease et Olivier Rabourdin.
Non, arrête, bon. Arrête-toi Liam Neeson en fait.
Ouais, je suis au max.
Au troisième nom on sait déjà plus qui c'est.
C'est ça. La note presse était de 1,8.
Wow, ouais. Ils l'ont tapé dessus. Hein.
Bon. Ils l'ont flingué. Ouais.
Ils ont raison.
Ok, d'accord. Et la note spectateur, pardon, elle est de 3,8. Donc là, il y a quand même un bon record.
Ouais,
c'est clair. Alors, ce soir, m'accompagne Charlie. Bonsoir, Charlie.
Bien, bonsoir, Thomas. Bonsoir, tout le monde.
Bonsoir, Thomas.
Eh bien, bonsoir à tout le monde. Fait plaisir.
Et bonsoir, Badis.
Bonjour.
Bonjour. Et bonsoir à moi-même,
Thomas,
bien évidemment.
Bonjour, Thomas.
Eh bien, pour commencer cette saison 2, on va partir sur Tekken. Et ça nous donnait ça quand on déballait le chocolat.
Ma chérie.
Papa. Tu sais quoi?
Non.
Tu te souviens de mon amie Amanda? Ses cousins nous ont invités à passer les vacances avec eux à Paris.
Mm-hmm.
J'aimerais tellement y aller.
Oh mon Dieu.
Salut papa.
Salut.
Tu devais m'appeler en arrivant.
Quelqu'un vient d'entrer.
Quoi?
Oh mon Dieu, ils enlèvent Amanda. Papa, il vient vers moi.
Ah, Amanda.
Écoute-moi bien. Va dans une autre chambre et cache-toi sous le lit.
Dis-moi dès que tu y es.
J'y suis.
Écoute. Ce qui va se passer est très important.
C'est et efficace.
Aussi.
On pourrait presque croire un film qui fait peur, là, comme ça.
Oui, oui.
Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez.
Je suis pas sur le piano, en fait.
Dites-vous bien que je n'ai pas d'argent.
C'est pas ouf, hein, je n'ai pas d'argent.
Ce que j'ai, c'est des compétences particulières.
C'est-à-dire que je suis Christian Grey.
Carrière. Des compétences qui font de moi un véritable cauchemar pour vous.
Où est son nom?
Si vous relâchez ma fille maintenant, ça s'arrêtera là.
Tu as 96 heures.
Et sinon?
Tu ne la retrouveras jamais.
Ok. Non.
Si vous ne la relâchez pas, je vous chercherai.
Où elle est?
Je vous craquerai.
Je vous trouverai.
Je vous tuerai.
Je vous tuerai.
Voilà.
Dans l'idée, c'est pas mal, hein?
Oui, bah... on va pouvoir en discuter. D'ailleurs, qui va me faire le résumé de ce film?
C'est l'histoire de Brian Mills,
yeah.
Interprété par Liam Neeson, donc qui, on l'apprend, est un ancien agent de la CIA, force spéciale. Voilà, il essaye de se rapprocher de sa fille.
C'était pas un ancien Jedi?
Aussi. Mais sous le prénom Qui-Gon Jinn.
Il a mené la résistance irlandaise aussi à une époque.
Exactement, c'est ça. Il a fait beaucoup de choses.
Cinéphile d'entre nous. Bref, et donc il se rapproche de sa fille, qui est une petite bourgeoise un peu casse-couille, qui décide d'aller à Paris.
Ouais.
Qui visiblement est la ville la plus dangereuse du monde parce qu'elle se fait enlever au moment où elle pose le pied sur le sol français.
Ça n'a pas de sens.
On y reviendra.
Écoute,
et donc,
nous, on a une vision très française. On ne sait pas. Peut-être que les Américains ont raison. Peut-être que quand ils arrivent et qu'ils sont deux et que ce sont des filles, ils se font obligatoirement
attraper. Je pense qu'il y a,
attraper,
y a un juste milieu. Tu vois, il y a Emily in Paris, il y a Tekken et il y a nous.
Mais en plus, quelque part entre les deux. Ouais.
Personne n'enlève des femmes américaines en arrivant. Enfin, je veux dire, ils vont enlever des femmes qui n'ont pas de visa ou des choses.
Ah, mais on reparlera du business plan des Albanais. Parce que voilà,
c'est
partie des gros points faibles du
plaisir. C'est que je me dis que tu enlèves des américaines, clairement, je te le dis, les policiers ne font pas comme dans Sim, on n'en a pas rien à foutre. Clairement, ils remuent ciel et terre pour les chercher, en fait.
Bien sûr.
Bah, surtout des touristes.
Ouais, c'est clair.
Donc, bref, elle se fait enlever. Et là, il s'avère que ça tombe bien puisque son père est un ancien agent secret et donc il va retourner la ville de Paris pour retrouver sa fille. Voilà.
C'est assez bien résumé, je pense que
c'est pas ça, mal. Ouais.
C'est vrai. Le film s'ouvre sur des images format VHS représentant un anniversaire et on se rend compte qu'en fait, eh ben, c'est Liam Neeson qui rêve de sa fille et que quand il rêve, il rêve en caméscope.
Certains rêvent en 8 mm et lui, il rêve en caméscope. Ouais,
c'est ça. C'est
pour faire un petit côté rétro.
Question de génération, je pense.
Et quand il ouvre les yeux, on découvre un Liam Neeson seul dans son appartement, assez simpliste, j'ai envie de dire.
Ouais. Bah, c'est un peu ça fait un petit peu début déprime, quoi. Tu vois qu'en fait, le gars, il est dans son appartement tout seul.
Je trouve que c'est vide. Le même appartement, c'est le même genre que, tu sais, celui de Denzel Washington dans Equalizer, quoi. Tu vois, où tu dis vraiment ultra sobre, ouais, ultra lisse.
C'est l'appartement de père divorcé, célibataire, en fait, hein, clairement.
La lumière est sombre, tout est sombre. Ouais. Tout est...
Et puis même lui, il est un peu tristoun, quoi.
Ouais,
petit peu. Le lendemain, Liam Neeson se rend dans une boutique pour acheter une Chenifi karaoké, qui même à l'époque du film, c'était ringard, ça. C'était ultra ringard.
Attends, 2x30 watts, radio cassette, enregistreur. Ouais, c'était quelque chose, hein. Ça envoyait.
Après, c'était en 2008, hein. Je sais pas, oui, pour remettre dans son contexte.
Il y avait déjà les iPhones.
Je pense qu'en 2008, ouais, c'était déjà ringard un peu. Ça te décrit un peu le personnage aussi. C'est un mec qui aime bien sa fille, mais voilà, il est un peu dépassé par le monde qui l'entoure aussi.
Oui, c'est vrai.
Il est pas à la page, quoi.
À l'époque, il était déjà sorti SingStar sur PlayStation. En fait, je pense que c'était plus intéressant, en fait, de certaine manière.
Et là, du coup, s'il achète ça, c'est pas par hasard, parce que c'est l'anniversaire de sa fille. Et Liam Neeson, il va se rendre chez son ex-femme. Alors, son ex-femme, par contre, elle a bien rebondi, elle.
Ah, elle s'est mis bien.
Elle s'est mis bien.
Elle a trouvé le bon pactole.
Le bon cheval.
Ah, ouais. Alors, comment tu le décrirais, Badis?
L'anniversaire était très stylé. Un cheval pour la fille. Vraiment un anniversaire assez incroyable. De gens qui ont énormément d'argent.
Oui, beaucoup.
Personne
beaucoup.
Ne fait ça. Bah, même des gens très riches, je pense.
Bah, quand tu viens offrir un cheval à l'anniversaire, bon, c'est plutôt pas mal.
C'est que ça respire. Mais la maison est déjà assez spectaculaire. Ouais. On sent que elle a pas pris le plus fauché du lot, quand même.
MTV aurait pu se pointer pour faire une émission spéciale anniversaire de Rich.
Les émissions reloues où les gosses se plaignaient parce que maman, tu m'as offert une voiture, mais c'était pas cette couleur.
Maman, la Bentley, elle est rouge, je la voulais en rose.
Oh, l'enfer que c'était.
Par contre, on voit déjà qu'il y a une détention entre la femme et le mari. Enfin, l'ex-femme, on comprend que c'est son ex-femme et.
Ouais, et Liam Neeson. Tu sens qu'il y a une tension encore entre les deux et que, bon, il y en a une, elle s'est dit, j'ai peut-être gagné de l'argent, j'ai un peu perdu le chibrax, mais. Je t'en veux encore sur des choses.
C'est marrant parce que on sent une tension, mais plus par rapport à leur relation, mais pas de tension sexuelle du tout. J'ai pas lu
moi,
ça comme
ouais,
ça.
Moi, ouais, ah, si, il y a encore un petit peu de tension sexuelle.
Pour moi, ils sont séparés. Ouais, c'est le père de ma fille. Enfin, tu vois, il y a pas de.
Et elle a l'air de le détester.
Ouais.
Moi,
ouais,
je
t'as
d'accord.
Vu t'as encore.
Ah, par contre, elle va lui balancer des vérités dans la gueule.
Des fions.
Je suis d'accord avec Charlie, clairement.
On en reparlera quand ils sont au resto. Au resto, ouais. On va lui balancer un truc.
Mais il y a pas c'est clair, il y a de la tension, mais c'est juste qu'en fait elle veut se venger, en fait, clairement, c'est juste ça. Et du coup elle cherche un petit peu à l'humilier quand même, un peu gratos au début.
Il y a un peu de rancœur, mais je pense que rien que la maison l'humilie déjà.
Moi, le truc qui m'a fait mal au cœur, parce que Liam Neeson, c'est un peu le père que t'as envie d'avoir, quoi, tu sais, il est vraiment proche, etc. Moi, ce qui m'a fait mal au cœur,
surtout si tu pars à l'étranger. Ouais,
ouais, c'est clair.
Oh bah non, moi personnellement je préfère avoir l'autre, hein. Il l'a mis bien quand même, la gosse, hein.
Ouais, parce que c'est dit, t'arrives une bricole à l'étranger, l'autre il sait pas d'autre cheval qui viendra t'aider, hein.
Non, après il peut t'envoyer un jet pour te ramener, c'est tout, en fait, quand, en gros, quoi.
Moi, ce qui m'a fait mal au cœur pour Liam Neeson, c'est que quand il se pend avec sa chenifi karaoké là, emballé, il arrive, le mec n'est tellement pas crédible dans cette fête de bourgeois que t'as le garde du corps qui dit non, les Uber cadeaux là, tu déposes ça et puis tu dégages. Il dit non, mais c'est moi le père. Ah d'accord, ok, super, génial.
Il lui donne son petit cadeau. Elle a l'air contente de le voir, quand même. Enfin, je veux dire, la relation père-fille est assez
saine. Elle reste 30 secondes, après elle bouge.
Elle simule très bien.
De toute façon, l'actrice,
très bien.
Cette actrice est toujours en surjeu, en fait, du début à la fin, en fait.
Moi, je sais que je l'aime pas parce qu'à la base, elle était dans Lost et elle avait un personnage énervant. Je trouve que dans ce film, son personnage est énervant aussi.
C'est pas une très bonne actrice, hein, vraiment, je trouve.
Plus, non, elle a pas fait une grande carrière non plus.
Par contre,
ça parle de lui.
Il y a le beau-père qui aime bien déballer sa tub, quoi. Parce que grosso modo, là, t'as la fille qui déballe, donc Kim, la fille de Liam Neeson, qui commence à déballer sa super chenifi karaoké. Elle dit oh merci papa, c'est gentil. Tout le monde en veut dire oh meuf, t'es en train de simuler, c'est sûr. Et si toutefois t'avais un doute, le beau-père se pointe avec le cheval et là tu vois ce que c'est, les cris de joie. Oh mon dieu, rich fuck. T'as envie de dire ok, c'est bon, ça marche.
Ah, ce qui fait marrer surtout.
Et là, le beau-père répond genre tiens, tu vois ta femme, c'est moi qui l'a. Et puis ta fille, c'est moi qui l'a.
Et surtout, c'est pas ça qui m'a fait marrer.
C'est vraiment le beau-père.
Au moment où tu vois ça, c'est surtout le regard de la mère qu'elle fait du jour à Liam Neeson, genre tu vois, ça c'est un vrai cadeau. Tu vois, en mode il y a vraiment d'entrée le côté je vais t'humilier un petit peu.
Puis elle lui dit ouais, genre elle voulait devenir chanteuse, mais c'était il y a 10 ans.
Ouais, c'est clair. Merci. Maintenant, elle a 17 ans, c'est une grande fille.
Moi, je suis pas d'accord. Je pense que la fille est quand même assez contente de son papa, même s'il a pas les meilleurs moyens.
Ouais. Mais... je trouve que tout le long du film, après, c'est
une meuf de 17 ans aussi. Ouais, c'est entre un cheval et un enregistreur karaoké, bah, ouais. On aurait tous fait la même chose. Hein.
Après, Gérard Depardieu a une très bonne théorie sur les femmes qui font du cheval.
C'est des grosses salopes.
Ouais. Non. Non.
Bref, le soir venu. Donc là, en fait, t'as Liam Neeson qui, bon, voilà, il donne le cadeau. On lui propose de rester à la soirée, enfin à la fête. Sinon, c'est bon, vas-y, je vais y aller.
Il obéit à ses propres règles. Oui. Il aime pas trop se faire humilier, donc du coup, il repart.
Non, franchement, en vrai, c'est dur à sa place, c'est dur.
Ouais. T'as quand même le réalisateur qui fait quand même le plan quand même qui fait vraiment où il est tout seul avec son cadeau au sol et il voit sa fille comme ça. Tu dis bon, on a compris, ça va, ouais. Ok.
C'est pas le film de la subtilité, hein, dans le tout le monde.
Moi, personnellement, j'ai pas du tout apprécié tous les moments en fait avec le père, genre c'est un miskin, genre le pauvre et tout, alors que pas du tout. Tu comprends qu'il a abandonné sa fille étant jeune, oui, par rapport à son travail, mais bon, c'est un peu nul à chier.
Et que c'était le film pas un peu poussif là-dessus.
Ouais, c'est bon. Genre, il est tout seul, il regarde des photos de sa fille le soir, personne ne fait ça.
Le problème de ce film, c'est
un père aimant, si.
Le problème de ce film, surtout, c'est qu'il, de toute façon, tu le sais, qu'il fait 1h30, donc il doit aller vite en fait. Et tout est très 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 rapide en fait.
Ah bah alors, et moi
je suis d'accord avec toi, c'est globalement pas un défaut du film, mais du coup en fait comme il est obligé de te bâtir des personnages très rapidement, bah en fait il fait tout de façon poussif, rapide, etc. C'est pour ça.
Ça peut pas être poussif et rapide en même temps. Parce que poussif c'est le contraire de rapide.
Ah bah, j'ai couché avec, il était précoce, ça a duré 6 heures.
Excuse-moi, je peux dire autre chose, mais je veux dire qu'en gros c'est très caricatural en fait.
Ah oui,
et rapide en fait, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je veux dire poussif.
Il te montre un truc 6 fois pour bien que tu comprennes, ouais. Et il te le montre
après vite. L'avantage, je trouve que Liam Neeson de base t'as une certaine empathie pour lui, donc en vrai ça passe.
Pas du tout.
Ah, ok.
Alors pas du tout. Moi je trouve vraiment qu'il a un visage inexpressif. Il m'a insupporté surtout au début, genre en mode le papa et tout qui regarde les photos. C'est trop. On a compris qu'il aimait bien sa fille.
Moi je dirais pas qu'il est inexpressif, mais en fait il fait toujours la même gueule. Petite gueule de chien battu comme ça, où t'as l'impression que la vie est contre lui permanence.
Après je sais pas si c'est à cause du film, moi je le trouve un peu menaçant quand même. Liam Neeson, tu vois, il a ce côté.
Il est froid.
Mais il a ce côté. Il en impose physiquement.
Ouais.
Il est grand. Il est assez massif, quoi. Excuse-nous, Badis, tout le monde ne peut pas être dessiné.
Oui, parce que
comme
là, vous ne le voyez pas, mais Badis, il fait environ 1m85 environ. Et
130 kilos de muscles.
C'est un Golgoth, quoi. C'est vrai qu'on est plus proche de The Rock que Liam Neeson, quoi.
C'est pas vrai. Non, mais il ne fait pas du tout peur, on dirait un vieux daron fatigué.
Bah, dans
mais
les
ça,
deux
c'est
sens.
Ce que tu penses.
Ouais, c'est clair.
Et c'est ce que les Albanais pensaient aussi. Et ils l'ont regretté.
À la première mandale, tu sais bien que c'est pas un daron, un vieux daron.
Bref, en parlant de Liam Neeson, donc le soir arrive, il est retourné chez lui, et alors là.
Eh ben, il y a ses potos qui toquent à la porte. Ouais. Parce que, disons, ils avaient prévu un petit barbecue. Chose qu'il avait oublié, mais bon, c'est un bon hôte, il sort le barbecue et bim.
Mais c'est marrant parce qu'il paraît quand même un petit peu à côté de ses pompes en fait au début.
Ouais,
du film.
En fait, tu vois qu'il est pas forcément adapté à la vie de tous les jours.
C'est
clairement pas son rayon. Ouais.
Là, en fait, avec ses potes, durant la petite soirée barbecue et bière, on va apprendre deux choses. La première, c'est que Liam Neeson est très proche de sa fille, qu'il l'aime énormément. Et la seconde, c'est qu'on va lui proposer un boulot. Et ça nous donne ça.
Elle apprécie au moins que pour te rapprocher d'elle. Tu es renoncé à ta vie ?
C'est pas une douleur de mon collègue.
Tu parles, mais... Vous vous souvenez quand on était à Beyrouth après la disparition du Cheikh ? Ryan a réussi à amadouer ce dingue du Hezbollah qui veut nous infiltrer. Et puis, monsieur a disparu.
On se démenait comme des diables pour se tirer de là avant de se faire descendre.
Oh ouais.
Et où, toi ?
J'ai promis d'être présent à tous ses anniversaires.
Ouais, et souviens-toi comme ils étaient contents au bureau, hein. Ils se sont rendus compte que t'avais pris la tangente, tout ça pour être à l'anniversaire de ta fille.
Le bruit que vous entendez derrière, c'est le barbecue.
Est-ce que t'as été apprécié à faire ça, hein ? En Arctique, c'est bien ça, pour espionner les pingouins, si je me souviens bien ?
Non, les pingouins vivent en Antarctique.
En l'occurrence, c'était en Alaska. Où tu veux en venir, ça ?
Bon, bah voilà, on a un boulot pour toi.
Comment nous raconter l'histoire sans nous montrer ?
Alors, en effet, ils ont un boulot pour lui. C'est quoi, d'ailleurs, ce boulot ?
Ben...
C'est un boulot à 2500 euros,
oui.
Dollars.
4000 ?
C'est moins.
Ah ouais, putain. Ah,
non,
putain,
non. 2500 billets et 4 heures.
C'est ça.
Mais moi, j'ai 4500 euros pour 4 heures.
C'est moins.
Ah.
Pardonnez. Hein.
Presque. Hein. Les chiffres sont presque bons, Kevin.
Ouais, bah, ça fait quand même...
C'est un beau billet.
Oh, pour c'est 4 heures bien payé quand même. Oui,
ouais,
c'est pas mal.
Ça fait plus de 500 euros de l'heure. Enfin,
après, vu ce qui va arriver, je trouve que c'est pas cher payé, en fait. Mais,
Attends, je sais pas encore. Donc là, grosso modo, Thomas, son boulot, c'est quoi ? Ça va.
Bon, c'est faire de la sécurité pour une pop star, en fait, techniquement.
Ouais, c'est ça. C'est être le bodyguard.
C'est exactement ça. Et du coup, bah, il part direction un concert.
On arrive directement sur le concert. Ouais.
Concert, bah, de toute façon, tout va très vite dans ce film. Concert d'une fameuse pop star qui s'appelle.
Concert.
Ouais. Cancer, c'est
ouais,
plus.
Cancer, c'est
c'est moins chantant.
Concert de Madame Shira. Ça commence par un cliché où en fait elle arrive, où elle se fait. Je sais pas, il y a jamais vu autant de flash de toute ma vie en fait à l'arrivée d'un concert.
Parce que t'as jamais été une star, ça va.
Non, mais ça me fait marrer, parce que c'est vraiment un gimmick. Et derrière, bon, bah écoute, elle rentre, elle fait son concert, ça se passe bien.
Attends, il y a une petite interaction déjà.
Il y a pas un petit concert.
Parce que voilà, dans toute l'équipe, ils sont 4 pour la protection. Donc les 3 autres partent faire leur truc et lui est affecté à la garde rapprochée de la star. Et donc il se retrouve dans la loge où elle commence à faire ses petites vocalises là.
Encore une fois, bonne gueule le gars, putain.
Ouais, non, mais
non, mais c'est trop. Mais arrêtez.
Le petit côté
d'un mignon,
daron,
mais vrai, tu vois, mais
putain, ma fille, elle est fan de vous.
Mais personne ne fait ça. Arrêtez. Oh là là.
T'as pas de cœur, Badis.
Mais non,
si, c'est un vieux granit qui bat dans ta poitrine.
Non, mais le gars là qui va demander à la star, ouais, je sais pas quoi, pour ma fille, elle veut faire chanteuse, vous avez pas des conseils? Et puis la chanteuse qui lui répond hyper mal.
Qui le prend un peu de haut.
Ah ouais.
La haute
Max. Fais pas ça.
J'ai un conseil à lui donner. Ah oui, lequel ? Quel change de métier ? Va tellement te faire voir, quoi.
Voilà, parfait. Mais voilà, donc il y a une petite interaction. Il commence tout doucement à créer des liens. Le concert se déroule visiblement bien.
Oui.
Et au moment où elle termine son concert, là, comme de par hasard, une péripétie survient et il y a des fans qui commencent à envahir le backstage, tu vois.
Alors attends.
Donc ils l'emmènent.
Ouais, d'accord.
Et en l'emmenant, il tombe sur un gars qui a réussi à rentrer en backstage avec
sorti
un couteau de 30
cm. Il est venu avec son sabre.
Ce qui en dit beaucoup sur la sécurité.
Voilà les 4 guignols que tu payes, toi.
Je veux dire, là, je vois pas où il aurait pu le planquer pour
et comment il est arrivé ici.
Et comment il est arrivé là, bref.
Ça
nous permet, c'est un prétexte pour voir Brian Mills en action, tu vois.
Tu dis, ah putain, le mec un petit peu mou de la guibole.
Il maîtrise en Krav Maga.
Il retourne des gens quand même.
Ah bah là, il.
Moi, ce qui m'a fait marrer par contre, c'est juste avant. C'est juste pendant qu'elle est en train de faire son concert.
Ah oui, le coup de téléphone.
Ouais, il y a Brian qui reçoit un coup de téléphone et c'est sa fille. Alors sa fille, elle a une ouïe incroyable parce que dans les backstage, elle arrive à reconnaître le morceau qui est en train d'être diffusé alors que t'as un son étouffé, quoi.
Le pire, c'est qu'ils sont tous en train de jouer au poker là, tu sais, en attendant que le concert, donc dans une pièce où il y a pas de bruit, et le mec sort de la pièce où il y a pas de bruit pour aller téléphoner à l'extérieur où il y a du bruit. Ça n'a aucun sens.
Mais oui,
complètement con.
J'y ai pas pensé.
Attends, je t'entends trop bien, je vais me mettre à côté des enceintes. Qu'est-ce que tu dis ?
Parle plus fort, je t'entends vraiment trop bien là. Et là, c'est pareil, le film un petit peu poussif parce que sa fille lui dit « Ah papa, j'aimerais bien un rendez-vous avec toi dans un restaurant, ce serait super sympa. » Et là, lui, tu vois qu'il a les yeux qui brillent parce que tout ce qu'il souhaite, c'est être avec sa fille quelque part. Tu prends de l'empathie. Bon, franchement, j'ai pris de l'empathie moi.
Ah mais moi, pas du tout. Moi, pour moi, c'était vraiment trop. Personne ne
réagit comme ça. Je lui en veux d'être aussi naïf, mais j'ai quand même de l'empathie
pour lui. Non, c'est trop. C'est trop. Trop, c'est bon, on a compris qu'il aimait bien sa fille, pas besoin d'en rajouter.
Donc là, en effet, bim, après, la star se fait agresser. Là, t'as Brian qui est en train de sauver tout le monde. Alors là, pour le coup, la petite chanteuse qui faisait la petite fière.
Elle
là...
est carrément plus. Ah ouais, ouais. Ouais.
Brian, en fait, j'étais un peu une pauvre connasse, je tiens à vous le dire. Donc, qu'est-ce qu'elle lui propose,
elle
Thomas
est, elle est très touchée, en fait, après, derrière, par son agression, en fait, d'une certaine manière. Déjà,
ça doit faire quelque chose.
Oui,
aussi,
ouais, je pense.
Une agression au couteau. Non, mais après, elle a raison, après, derrière. Mais elle est très touchée, et du coup, bah, elle décide de tout au tout. Au début, elle se fout de sa gueule. Et là, elle décide de l'aider à 100%. Donc, elle lui propose un cours de piano, enfin un cours de chant, et aussi elle lui donne aussi le numéro aussi de
son agent
pour sa fille. Donc, elle est très sympa.
En guise de remerciement.
C'est pour ça, tout va très très vite en fait.
Et elle lui fait un bisou.
Ouais, parce que c'est un peu le papa qu'elle aurait aimé avoir.
Un bisou comme d'une fille à son père, tu vois.
Mais ça
merci
sort
de m'avoir sauvé la vie.
Ça, c'est aussi un petit peu bizarre. Ouais. Encore une fois,
vous l'aimez trop bien. On t'a jamais sauvé la vie,
je pense.
En fait, une fois, tout est très très rapide, juste pour ce qui arrive derrière. Mais je suis d'accord avec toi, c'est rapide, quoi.
C'est le lendemain, c'est déjeuner. Donc déjeuner qu'il est censé effectuer avec sa fille seule. Mais au moment où sa fille arrive, il se rend compte que la mère est là aussi.
Et là, franchement, putain, je te jure, j'ai envie de dire, Liam, mais ça pue le traquenard, hein, cette histoire. Parce que lui, tu vois, il était tout content de voir sa fille. Il y a sa vieille gueule d'ex-femme qui arrive avec mais vraiment fermée. Tu dis oh là là l'ambiance, ça va être génial.
Et puis, lui, il essaie de faire le papa poule, avoir préparé déjà le milkshake préféré de sa fille avec le supplément cerise, je sais pas quoi, mais cool.
Parce qu'il aime sa fille,
c'est
bien
ça,
sûr.
C'est clair. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a quand même tout le début où il veut vraiment montrer en fait, bah, en gros, j'ai disparu de ta vie pendant 17 ans pour le travail. Maintenant que je reviens, je suis là en fait. Et c'est vrai que c'est un petit peu trop.
Par contre, je reprends à tes 8 ans. Donc c'est karaoké, c'est milkshake fraise.
C'est un peu le problème, c'est clair.
Polly Pocket.
Tiens, je t'ai offert une Barbie. Papa, j'ai 17 ans.
Eh ben alors, il est jamais trop tard pour s'amuser. Le mec reprend à zéro, quoi.
Et là, en fait, très rapidement, tu comprends que ben, sa fille, c'est par intérêt qu'elle est là, quand même.
Ni plus, ni moins. Par intérêt, non. Elle sait très bien que son papa est compréhensif. Elle veut. Elle a l'occasion. Elle a l'occasion d'aller à Paris.
Pas du tout.
Pas d'accord.
C'est pas que son papa est compréhensif, c'est qu'elle a besoin de la signature de son père pour se péter.
Ah, voilà.
On est quand même sur un chantage affectif direct.
Tu demandes l'autorisation de sortie à tes parents, c'est normal.
Ouais, non, franchement, c'est
abusé. C'est pas subtil, en fait. Quand
elle veut aller faire son expérience en Europe.
Elle veut aller visiter des musées, c'est ça, en fait, son argumentation, ouais. En fait.
Ce qui est bien, c'est que bah, Liam Neeson, il est en train de se dire, attends voir, parce que moi, c'est pas comme ça que j'avais compris le rendez-vous, donc ça me fait un peu chier. Et là, il y a son ex-femme qui lui envoie des fions, mais tout le long.
Ah ouais.
Ah non, mais abusé. L'autre, oui, bah attends, t'étais jamais là et tout. Là, ta fille, elle te demande un truc, tu veux pas le faire. Et t'as envie de dire,
non,
ah ouais,
non,
super.
Non, c'est en fait, au début, elle lui demande pour aller à Paris. Elle lui dit, ouais, je sais pas trop si c'est une bonne idée. Et puis après, il lui propose, si tu veux, je viens avec toi et je serai invisible, tu vois. Et puis l'autre, l'ex-femme, lui fait, ouais, bah en fait, comme les 17 ans de son enfance. Il dit, ouais, vache.
Bah, c'est là que tu vois que ça a été un mauvais papa.
Ah oui, non, mais ça n'a pas été un très.
Il avait un boulot, bah dis, Satan, c'est pas facile non plus.
C'est pas une raison pour l'enfoncer non plus devant sa fille.
Et là, pour le coup, Liam Neeson, il n'est pas ultra chaud. Et comme toute grosse capricieuse de sa race, ouais. La fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à chialer, genre, ouais, mais c'est bon, de toute façon. Elle se pète.
Bah, j'ai un caprice.
Et j'avais envie de dire, oh ma puce, alors ça, tu vas tellement t'en manger les doigts dans 20 minutes, ça va être extraordinaire.
Il faut que le scénario avance.
Le problème, c'est que le scénario justifie quand même la paranoïa du personnage principal.
Ah oui, on y reviendra.
Alors que, bon, Paris, c'est pas une zone de guerre non plus, quoi.
Bah écoute, visiblement, beaucoup d'Albanais à Paris. Hein.
Oui.
Mais d'Albanais énervés, j'en
veux dire. Oui, voilà, c'est plutôt ça, plutôt énervé. Mais enfin, voilà, il se fait un peu remonter les bretelles et puis au final, il accepte de la laisser partir.
Ouais, parce qu'il lui dit, écoute, tu sais quoi, je vais y réfléchir, donne-moi les papiers et puis voilà. Et là, t'as l'ex-femme qui dit, bah. En même temps, c'est pas compliqué. Hein. Si tu fais pas ça, bah, en fait,
tu seras un mauvais père.
Tu seras un mauvais père et puis
tu vas la perdre encore.
Tu vas la perdre encore une fois.
Mais vraiment rapidement. Quoi.
Donc là, Brian, il dit bon, allez, tu sais quoi, c'est pour visiter Paris. Il arrive juste après, donc il part du diner et puis finalement, il réfléchit, il signe les papiers, il retourne.
Il a pas le choix, surtout en fait.
Oui, parce que vu le chantage affectif qu'il y a eu, de toute façon, sinon c'était mort. Et puis sinon, le film se stoppait là. De toute façon, donc, Taken au cinéma, 12 minutes. Allez hop, enlevé. Donc là, il y va, il toque chez l'ex-femme. Il se pointe, bah écoute, voilà, j'ai signé les papiers, tu peux y aller. Par contre, j'aimerais que ce soit à certaines conditions. L'autre, elle s'en bat les couilles, elle saute partout, genre, maman, c'est bon, il a accepté. Là, l'ex-femme, elle arrive, genre, bah voilà, tu suis mes conseils. Quand t'es bien, c'est quand tu m'écoutes. Oh là là,
oh là là,
c'est bon.
Surtout que je sais pas si elle avait besoin en fait des deux autorisations. Elle a l'autorisation de la mère, en théorie, ça devrait suffire en fait.
Oui, je vois pas pourquoi elle a besoin des deux autorisations.
Enfin bref,
c'est scénario, de toute façon.
Donc là, t'as Liam Neeson qui commence à dire, ok, ça marche, donc vas-y, je te signe le papier. Par contre, j'aimerais s'il te plaît que tu suives certaines règles, à savoir quand tu atterris, eh ben, tu m'appelles pour me dire que tout va bien, tu me rassures, tu me dis où tu vas, qui y a, etc. Oui, papa, pas de soucis, et je t'amène à l'aéroport.
C'est ça, voilà, c'est toutes les bails.
Et il va l'amener à l'aéroport. Et qu'est-ce qui se passe à l'aéroport, Badis?
Du coup, il va prendre les valises dans le coffre et là, il trouve un plan avec... Ça n'a pas de sens, le plan. Il trouve un plan avec plein de trucs.
Il est posé là un peu.
Ouais, genre elle va faire le tour de l'Europe. Et finalement, tu comprends qu'elle va faire le tour de l'Europe. Pourquoi?
Pour suivre U2.
C'est U2?
C'est ça qui...
C'est ça qu'elle dit.
Poursuivre Bono, genre?
Ouais, c'est... Ouais.
Oh.
Non, c'est
ridicule.
Ça fait partie des trucs qui parce que je suis pas sûr qu'en 2008 une adolescente aille suivre YouTube en concert.
Non, mais surtout va suivre YouTube sur toutes ses étapes. Tu veux pas juste faire une date, tu les fais tous à travers l'Europe, quoi.
C'est à dire qu'elle est ultra fan de YouTube.
Puis t'as compris qu'elle était un peu bête.
Ah non, mais
à la limite, tu vois, c'était plus intéressant qu'ils se disent, vous savez quoi, on va pas à Paris, on va faire un tour de l'Europe. Voilà, ça suffisait en fait.
Pourquoi là, oui, mais attends, si elle lui dit ça, c'est mort.
Déjà un pays.
De toute façon, c'est ce qui arrive parce que derrière, après, de toute façon. C'est ce qui va être le cas en fait.
Oui, parce qu'il a plus le choix.
Bah bien sûr.
Bah, il a plus le choix. Bah bien sûr, mais il a encore le choix.
Non mais là il a là pff,
et alors il attire par les cheveux, il la ramène à la maison.
Je crois que c'est le principe de YouTube,
c'est sûr qu'il brise les liens s'il fait ça.
Parce que c'était un placement de rock band.
Vraiment enfin, abusé, c'est qu'au moment où il découvre ça, parce qu'en fait, Kim, elle est partie rejoindre sa fameuse pote avec qui elle part, Amanda. Ouais. Et quand Brian, donc Liam Neeson, quand il découvre la carte, il dit attends voir, parce que là, c'est pas du tout ce qui était prévu. Et au même moment, arrive son ex-femme, qui elle était clairement au courant depuis le début, et dit bah oui, bah alors. Et t'en vas dire ah oui, donc au resto, donc tout le monde s'est foutu de ma gueule, quoi. Ouais, en plus, c'est moi qui ai payé tout, donc
en
génial.
En même temps, même partir.
Bah, il a rien payé.
Si, je pense.
Même partir à Paris, le mec.
Moi, dans mon scénario, il est celui qui a payé.
Même partir à Paris, le mec pète un plomb. Donc, tu m'étonnes qu'ils lui disent pas pour le reste. Ça paraît logique aussi.
Et là, direction Paris, parce que finalement, bah, Brian, il a plus qu'à se taire. Direction Paris pour Kim et Amanda. Elles arrivent. Et qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, elles se font accoster directement dans la file d'attente du taxi.
Ouais.
Par un jeune homme.
Ça bien trop Peter. Souriant et trop avenant pour être parisien.
De bonne allure. Oui, bah, on peut penser que. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout là ? Oui, on peut penser que c'est un touriste aussi.
Enfin, qui en France et qui s'appelle Peter.
Qui s'appelle Peter, voilà. Et il s'avère qu'Amanda a un peu chaud.
Oh, attends, excuse-moi, il vient de nous faire la traduction des prénoms.
Je ne sais pas, c'est ridicule.
Et John, tu l'appelles comment ?
Non, mais c'est ridicule parce que plus tard, je te rappelle, t'as un personnage, il ne pouvait pas faire plus français, il va s'appeler Jean-Claude. Tu vois, c'est vraiment. Oui,
peut-être que c'est un étudiant Erasmus aussi, t'en sais rien.
Dans quel sens ?
Quelque part, qu'un étudiant Erasmus soit à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, ça paraît logique.
Bah après le scénario là, moi je trouve ça va. Hein.
Ça va. Ça va bien. Enfin, ouais.
Elles se font accoster dans la file.
C'est la
file
décadence.
Vous venez d'où, les filles ? Californie. Ah là là, la Californie, machin, le soleil, les meufs à poil, tout ça. Ça vous dirait, on partage le taxi.
Si Kim est assez débile, Amanda, c'est vraiment.
J'ai l'impression qu'elle
n'aurait pas être son père. Hein.
Qu'elle est, ouais, carrément.
Compliqué, hein.
Elle est aveuglée par ses pulsions sexuelles, je pense. Parce que clairement, elle le dit dès le départ qu'elle le trouve mignon et elle va le faire comprendre plusieurs fois.
Oui,
non, mais elle réfléchit pas.
C'est abusé, tu sais, parce qu'arrivant, elle lui dit oui, vas-y. Parce que le mec lui dit voilà, si vous voulez, on partage le taxi, je vous raccompagne et tout. Et puis après, je vais vous inviter à une fête. Et puis Amanda, ouais. Et là, t'as Kim qui dit bah attends, on le connaît pas. Et l'argument de ouf d'Amanda, mais si, il est trop mignon. Ok, ça marche.
C'est une bonne.
Disons qu'Amanda, à mon avis, elle avait qu'un seul but, c'était peut-être de faire une tournée sexuelle en fait. C'est à mon clair. Avis. Là, je vais en Angleterre, je me fais un copain, Paris, etc.
Mais non, il y a une comparaison des pays.
Pourquoi on voyage ça, pour YouTube, pour la bite. Oui, pour YouTube, oui, bien sûr. Oui.
Après, elle veut s'amuser, hein, c'est une grande fille. Hein.
Oui, bah, en même temps, t'es pas sous la supervision de tes parents.
C'est ça.
Voilà. Dis, vas-y.
Ils prennent le taxi, ils se font déposer devant le fameux appartement que Kim et Amanda réquisitionnent. Et alors là, Amanda, le fantasme de toute personne qui rêve de faire un kidnapping, qu'est-ce qui se passe ?
Bah du coup, elle lui dit bien, oui, c'est un appartement, mais les propriétaires ne sont pas là, ils sont à Madrid. Du coup, on est seul. Et voilà, c'est à peu près tout.
Je te jure, il manquait juste le code.
C'est au cinquième. Non, c'est au cinquième. Okay, c'est tout l'étage, donc il n'y a personne d'autre à l'étage là. Donc il n'y a qu'une porte à enfoncer pour nous trouver.
Alors par contre, on y reviendra, mais alors les cousins qui ont l'appartement.
Ça respire bien.
Parce que l'appartement.
L'étage entier de
l'appartement dans le 16e, à côté de la ligne 9 et du
RER. De toute façon,
financièrement, ça respire bien.
S'ils peuvent se barrer dans leur second appartement. À Madrid, ils sont tranquilles.
En fait, on est plutôt pas mal.
Et la fameuse la fille de Brian, je sais plus comment elle s'appelle.
Kim,
en revanche, elle était pas au courant de tout ça en fait. Elle pensait vraiment être chez des gens, etc. Donc elle est un peu surprise et pas très jouasse en fait, d'une certaine
manière. Ouais, enfin finalement, elle a le mytho à géométrie variable hein, parce que quand il s'agit de mitonner à son père, elle est là, ça passe. Et puis quand on lui dit, au final, il y a personne dans l'appart, elle a l'air de tomber des nues.
Oui.
Alors que si l'autre balance pas toutes les infos, il se passe rien dans l'appart.
Oui. Ah non, mais c'est ça. Parce que très rapidement, le film n'essaye pas de jouer avec nous. C'est-à-dire au moment où Amanda commence à dire toutes les infos, genre ouais, nous on est au cinquième, c'est tout l'étage, etc. Ok, les filles elles rentrent et en fait, tu vois Peter qui prend son téléphone qui commence à dire, deux touristes américaines, cinquième étage, à telle adresse. Tu dis, ouf. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Et compliqué, ça va être le cas en effet. Parce que donc les filles arrivent donc dans l'appartement, elles ont même pas le temps de déballer leurs affaires, ça commence à écouter de la musique. Et là, ce qui se passe, c'est que Brian, lui, il consulte l'heure d'arrivée de l'avion. Et il se rend compte que Kim, sa fille, elle l'a pas appelé au moment où l'avion a atterri. Donc ça commence un petit peu à l'agacer parce que
il est un peu
paranoïaque, mais le film va lui donner raison. Donc,
le film lui donne raison, mais il est carrément paranoïaque.
Il est un peu dans le contrôle, ouais, c'est clair. Ouais.
Et donc il appelle, ça marche pas. Et puis vu qu'il persiste, arrivant Kim, elle voit les appels, elle se dit vas-y, tu sais quoi, je vais quand même prendre le téléphone. Elle fait l'inverse de son père, c'est-à-dire que elle s'éloigne vraiment de la pièce bruyante.
Oui.
pour voilà. passer un coup de téléphone.
Tu vois, ça évolue quand même de père en fille.
Et donc elle décroche, qu'est-ce qui se passe, Badis?
Et ben là, il y a la scène la plus intéressante du film, finalement. Et elle lui dit ouais et tout, je dois te dire quelque chose. Ils sont en Espagne, et du coup, lui dit quoi, comment ça et tout. Et puis là, il se passe la scène du film. La scène la plus intéressante du film et la scène finalement qui a fait connaître Tekken.
Okay,
on peut le dire.
Ouais, ouais. Je pense que ces 5-6 minutes là du film, c'est
quelque chose.
Ouais.
Kim, elle se dirige dans la salle de bain au téléphone avec son papa et là elle voit par la fenêtre Amanda en train de se faire kidnapper. Du moins des gens sont rentrés dans l'appartement et sont en train de kidnapper Amanda.
Très vite, je trouve que la scène là elle fonctionne de ouf et en fait le film il prend pas de détour et je trouve qu'il va en ligne droite. Et alors la réactivité de Brian le père. Au moment où il entend ça,
oui,
le gars
sort la mallette.
Il sort la mallette, bim, il enregistre direct et le mec ultra directif en lui disant écoute, je vais t'expliquer, d'accord ?
Ça, c'est ouf.
Ah ouais, non, franchement, c'est ultra bien fait. Il commence à dire écoute, je vais t'expliquer, tu vas me décrire tout ce que tu vois. Il y a un lit près de toi, oui, il est là-bas, ok, tu vas sous le lit. Elle se pointe sous le lit, alors là, elle change de gueule parce qu'elle comprend que les vacances à Paris, c'est plus la même limonade.
Ah bah, elle va voir le Paris Underground, quoi. Là, c'est pas le Paris des touristes. Hein.
C'est ça. Ouais. Et là, ça m'a fait rire parce que la violence des propos du père m'est tellement réaliste qu'il dit écoute, ce qui va se passer. C'est que là, tu vas te faire kidnapper.
Incroyable.
Et tu sens que Kim, elle voulait pas entendre ça.
Ouais.
On voit qu'il a quand même l'expérience du kidnapping. Il sait un peu comment ça se déroule et donc il essaye de le cadrer pour en tirer le maximum d'informations.
Pourquoi elle sort pas par la fenêtre? Elle saute.
Parce que c'est cinquième
étage. C'est cinquième
étage.
Oui, mais ça va.
Ça va pas du tout.
Mais au moins, elle ouvre la fenêtre, elle crie, elle essaye de faire
quelque
chose.
Elle a l'occasion d'être une esclave sexuelle ou une esclave sexuelle avec deux genoux en moins. Donc elle choisit la première solution.
Salut mon beau, tu veux que je raconte l'histoire de mes deux genoux, tu vas adorer.
Juste un macabre peut-être, je pense.
Oui,
que
ou un macabre, ouais. Enfin, tu vois.
Et là, c'est compliqué. Et tant bien même que il commence à dire, écoute, quand tu vas te faire enlever, parce que tu vas te faire enlever, je veux que tu hurles, que tu me dises tout ce que tu peux voir, les détails physiques, les accents, la taille, les tatouages, toutes les particularités physiques, les cicatrices. Et je me dis, oh, à sa place, c'est tellement une montagne d'informations à recevoir que moi, je serais là sous le lit en train de. Arrête de péter. Ouais, je peux pas parce que là, je suis vraiment stressé. Moi, je te jure, il m'aurait suivi à l'odeur. Ah, ça aurait été atroce. Tu l'as trouvé? Non, mais ça pue la mort dans la chambre. Je pense que ça doit être là.
Mais surtout, elle a la présence d'esprit de donner des tailles très importants. Parce que dans la panique, moi, j'aurais parlé de n'importe
réussir
quoi. Alors, il a une paire de Jordan. Elles sont bleues et noires avec des lacets multicolores. Ah, puis, super, nickel. Avec ça, tu vas nulle part.
1m85. Comment elle a pu mesurer la taille?
1m80. Ouais, moi, j'ai entendu 1m40. Je sais pas comment elle fait l'estimation. Très rare.
Ouais, mais en tout cas, ça va bien aider. Et là, le film est bien fait parce qu'elle est sous le lit. Et là, t'as Brian qui commence à se dire maintenant, tu vas prendre ton téléphone. Oh, tu vas l'éloigner de ton cul parce que je t'entends lâcher des caisses, mais tu vas le tourner vers eux, d'accord ? Je vais entendre tout ce qu'ils disent. Et je trouve que le plan sur Liam Neeson, il est tellement classe. C'est vraiment une espèce de léger travelling qui arrive sur lui. Il a un visage froid. Je veux dire, le mec, c'est acté. Ah, sa fille, elle va se faire enlever. C'est bon.
En soi, Liam Neeson, c'est un bon acteur. Hein.
Ah ouais, ouais. Non, mais pour moi, la scène, elle fonctionne de ouf. Et là, tu vois les pas sous le lit. Tu te dis, ils sont en train de sortir de la pièce. Tu dis, ah bah. Nickel, peut-être elle va s'en sortir. Elle se fait traîner par les pieds.
Déjà, il parle en albanais aussi.
Ouais.
Pourquoi tu sais pas encore. Enfin,
tu sais pas, c'est
pas à ce moment-là que c'est l'albanais, mais.
C'est Krakosia, mais rien à voir. Ça, c'est...
Enfin, il parle dans une langue qui est ni le français ni l'anglais.
Ouais.
Et donc, ça tombe bien parce qu'il enregistre toute la conversation, bien sûr, avec sa petite mallette. Là. Et
ah
elle se fait enlever.
Il a tout le temps la mallette à portée de main. Parce que franchement, on dit papa, il y a quelqu'un qui se fait enlever. Pouf, hop, il l'a ouvert. Tu vois, la vache. Le mec était prêt, quoi.
Ouais, c'est la mallette parfaite. Et puis, il bafouille pas, en fait. Il sait directement où est l'enregistreur, etc. Il fait.
Ah bah, il a de l'expérience. Il a 30 ans de force spéciale, je pense que.
Ah, ça cause. Hein. Ça cause. Et donc là, elle se fait kidnapper. Elle commence à hurler tous les renseignements qu'elle peut. Et tu vois Liam Neeson au téléphone. Tu sens qu'il y a une tension là-dessus. Et ce qui se passe, c'est que tu entends les cris de Kim qui s'éloignent, donc tu comprends que le téléphone, lui, est resté au sol. Et là, t'as un blanc. Tu sens que quelqu'un récupère le téléphone. Et pour moi, je trouve que c'est la meilleure scène du film et ça nous donne ça.
J'ignore qui vous êtes.
Ah, d'accord.
J'ignore ce que vous voulez.
Les panneaux solaires.
Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous relâchez ma fille maintenant, j'oublie tout, ça s'arrête là.
Bon, okay,
je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous la gardez, je vous chercherai.
Je vous trouverai. Je vous tuerai.
Et je vous tuerai.
Bonne chance.
C'est même pas parler français.
Franchement, la réplique là, ouais. J'ai craché de nombreuses fois sur Luc Besson, mais alors celle-là, putain, il a oublié
c'est
d'être con le jour-là.
Hein. Ouais, j'avoue, ça nous place le contexte, le daron énervé, et il a les moyens de se venger. Liam sait très bien, enfin, Brian, sait très bien que le temps est compté, ouais. Et donc là, il se met en branle, il commence à appeler son pote en lui disant « analyse-moi ces petits trucs », il débarque donc chez le beau-père, ouais. Il commence à lui balancer ses quatre vérités en lui demandant s'il a des ennemis à l'étranger parce que visiblement ils trempent dans des affaires louches. Ils s'engueulent un peu et ils vont dans la chambre de la fille pour essayer de glaner des informations. Et là, le pote le rappelle en lui disant, bon, ce que j'ai entendu, c'est de l'albanais.
Les deux tatouages que t'as fait.
Je vais te donner toutes les informations. Mmh. Ça va pas être moche. C'est trafic de drogue, prostitution. Ils sont énervés. T'as 96 heures.
Génial.
Allez, c'est parti.
J'accepte.
Bon, hein.
Le daron le plus énervé de l'histoire va débarquer à Paris.
Ah putain, puis alors il va débarquer à Paris, il va pas faire semblant, parce que qu'est-ce qui se passe ?
Bah, il a le droit à un vol en jet privé offert par le mari en fait de son ex, en gros, on va dire.
Oui, parce que son ex-femme, là, qui faisait la go, genre à t'envoyer des fions plein la gueule, etc., oui. Au moment où il commence à se dire, écoute, la petite s'est fait enlever, elle commence à dire, vas-y Brian, fais ce que tu sais faire, parce que toi, t'es vraiment l'homme de la situation.
Oui, finalement, le fait qu'il ait été absent pendant 17 ans, ça va servir, là.
La CIA, là, c'est marrant, ça va servir à quelque chose, c'est clair. Du coup, il se chauffe dans l'avion en réécoutant indéfiniment le bonne chance. Ouais. Bonne chance. Tu sens que le mec monte en tension et qu'il attend de se dire t'inquiète, bonne chance, toi, t'en auras pas en gros.
Bah, il essaye de retenir aussi l'écoute par rapport à la voix.
Il arrive donc à Paris et donc il retrouve l'appartement dans lequel devaient séjourner Kim et Amanda. C'est bien ça. Alors, j'ai pas compris pourquoi il passait par la fenêtre.
Alors, il y a plein de trucs qui vont pas. Ouais. Parce que déjà, il a pas l'adresse de l'appartement.
Oui, c'est vrai.
Il l'a récupéré dans la chambre, non ?
Bah, après peut-être que en allant chez son ex, il lui a dit dans quel appartement il devait aller, ça c'est possible peut-être.
Mais oui, il passe par la fenêtre alors que les ravisseurs sont passés par
rentrés.
La porte.
Et limite les ravisseurs, je sais pas comment ils sont rentrés, mais ils ont dû rentrer limite en il y avait la poignée, c'était il y avait même pas de
chance en gros quoi. Surtout que tu vois qu'il ouvre une porte, donc du coup, il est chez qui ?
Je sais pas.
Non, en fait, il ouvre la porte principale, ensuite il monte dans les escaliers.
Il est dans la cage d'escalier
et il ouvre la fenêtre pour aller en face.
Mais comment il est rentré par une fenêtre alors qu'il est dans
Oui, puis il y a un truc il y a un truc qui est pas logique, c'est qu'en plus il rentre dans l'étage, il est forcément au cinquième étage puisque l'appartement fait l'étage entier,
oui.
Et il fait le tour pour rentrer par la salle de bain. Enfin bref.
Oui, non, il y a forcément une cage d'escalier quelque part, mais
il y a un truc, bizarre qui fait bref.
Et là, il fait un super parcours, tel Tom Rider sur le mur pour rentrer par la fenêtre.
J'avoue que ça c'était pas super utile quand même.
Ah ouais,
ça je pense que c'est pour faire perdre 5 minutes en fait et qu'on voit qu'il a des capacités à savoir faire de l'escalade.
Spider-Man.
Ouais, parce qu'en plus c'est pas non plus des cascades de ouf qui donc c'était vraiment
L'agilité, c'est pas ça.
Alors regardez, je monte les escaliers deux marches par deux marches.
Wow, dingue!
Cascade.
C'est clair.
Et puis là, il dispose de vision.
Oui. Ah oui, parce qu'il est profiler.
Oui, il a la compétence flashback qui est vachement utile quand tu crées ton personnage.
C'est-à-dire que c'est le genre de mec, quand il touche une cafetière, il voit qui l'a fabriqué.
Oh putain!
Ouais, c'est
vous avez fait! Vous avez fait!
C'est très pratique quand clairement quand tu fais des enquêtes en fait.
Ah, ça permet de montrer au spectateur aussi un peu où il en est. Il retrouve la chambre donc, où elle a été enlevée.
Ouais.
Le téléphone.
Oui.
Il récupère un morceau de fibre sur le.
Ouais. dans un miroir qu'il va pas utiliser.
Sans rien.
Moi j'ai cru que c'était de l'ADN parce qu'en fait il voit que quelqu'un était projeté sur le truc. Moi je me dis qu'il récupère. Moi j'ai cru qu'il récupérait des cheveux.
Moi aussi.
Oui.
Ça sert à rien en fait.
Bah pareil. Non, je pense qu'ils ont dû. Il devait y avoir une scène plus tard au montage et ils l'ont coupé à mon avis.
Je pense aussi. Par contre, il va récupérer une carte SD qui vient d'un téléphone. Alors il faudrait remettre les choses dans le contexte. On est en 2008. Oui. À l'époque, les appareils photos sur nos téléphones portables étaient vraiment à chier de ouf. Mais il va quand même récupérer une carte SD et il va aller dans une espèce de borne.
Il va dans
Leclerc.
Ouais, c'est clair. Encore, il va à la Fnac.
Il faut vraiment que les films arrêtent de faire le truc quand tu zoomes sur une photo, que tu puisses peaufiner l'image pour rendre un truc.
Surtout à l'époque, avec la qualité des pixels, qu'il arrive à faire le truc. Parce que là, en gros, il arrive à voir le mec qui a pris la photo des filles quand ils étaient à l'aéroport à travers un reflet d'un panneau publicitaire.
Et en zoomant.
Oui, avec un appareil photo de 10 pixels. <C'est
clair. rire> Alors, par contre, c'est vraiment pas de chat pour Peter parce qu'en effet, il va réussir à l'identifier. Et je peux dire.
Il est un peu con, il refait toujours la même technique. En gros, il fait la technique du taxi. Quoi,
ça passe.
D'ailleurs, combien de temps avant que le mec devienne suspect quand même à l'aéroport Charles de Gaulle ? Parce que tu vois, il y a un gars qui traîne qui est là tout le temps, il y a des meufs qui disparaissent. Enfin, si les enquêteurs sont un peu logiques, combien de temps au bout de...
Apparemment, tu comprends que les enquêteurs à Paris qui gèrent les enlèvements, on n'a rien à foutre, puisque tu comprendras plus tard qu'ils s'en battent les couilles. Donc, en fait,
ils sont pas ouf.
Donc là, pour le coup, Brian, il a une piste. Il a le reflet d'un gars dans une vitrine.
Il a le reflet d'un gars, c'est ça. Tout à fait pareil, en fait.
Donc là, on retrouve Peter qui accueille une espèce de
suédoise.
Suédoise, ok.
meilleure actrice du film.
Ouais, c'est clair.
Bejo. Oh. Je suis suédoise.
Vous êtes sûr? Parce que l'accent n'est pas ouf, ouf.
Et puis il fait toujours la même technique. Hein. Oh, les, vous savez, les taxis, c'est cher, c'est à Paris. Vrai. On partage? Bien sûr.
Bah oui, d'accord, alors.
Et alors là, c'est marrant parce que là, Peter Easy, allez, c'est bon, celle-ci, c'est elle parti, va rentrer, c'est nickel. Ouais. Et il s'avère qu'à l'échelle des prédateurs, il y en a un qui est plus violent que Peter. Il s'appelle Brian, pardon. Il va le bourrer dans le taxi. Il va lui péter les côtes, mon gars.
Ah,
mais
ça, c'est incroyable. La réflexion qu'il lui fait, là, tes côtes vont se perforer, tu risques mais non, de mourir, c'est incroyable.
C'est un agent secret, aucun agent secret, enfin, fait ça.
Oh, un agent secret.
Là, on parle pas d'un, on parle pas d'un simple agent secret, on parle
c'est
d'un
un père. C'est un père, c'est avant d'être
un agent secret qui veut te faire parler. Si, si, moi, je pense que clairement, c'est totalement
oh là là.
C'est un père secret. Le fameux Renoir se pointe pour tirer Liam Neeson du taxi.
Ah, il se fait maîtriser aussi. Hein.
Ah oui, 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 il le pète, mais par contre, ça laisse l'opportunité à Peter de s'arracher. Et là, on se rend compte que Brian, la cardio, c'est pas son délire.
Non. Et pourtant l'autre a une côte pétée hein. Donc, courir avec une côte cassée c'est pas évident mais oui c'est oui bah, il court que deux fois dans le film et ouais on sent bien que ouais. c'est pas son
alors fin. C'est pas Tom quoi en fait quoi. Non.
Vous avez osé dire sur Saul quand Angelina Jolie avait l'air fatiguée
ouais non
là, oh, vrai, mais aussi. Là c'est un délire
non, non, mais attends
là, il est pas fatigué là
t'imagines Mister et Mrs. Smith avec lui 56. Et Angelina Jolie en train de courir tu vois ouais, mais les agents secrets je les... c'est bon je les fume en fait
non mais je suis désolé Angelina Jolie avait mille fois plus d'allure que ce truc là qui court ah, à moitié de,
c'était pas la course moi qui m'avait marqué dans Saul c'était, ouais. C'était mais... plus sa carrure et les pêches qu'elle envoyait quoi
les patates de fond non mais là
on est d'accord qu'il y a le meilleur moment du film
vas-y
et bah du coup il y a la course poursuite il y a les flics qui il y a les flics qui arrivent par derrière et moi fou rire. Pourquoi? Parce que du coup Peter celui qui a les côtes pétées il court ensuite du coup il saute
sur un camion
et là il y a quelque chose qui l'écrase et là il y a
fin de scénario
et là il y a comment ils appellent déjà le daron
Brian
qui se dit ok bah il est mort et il part
ouais.
Et il y avait les flics qui le coursaient
oui.
On les voit.
Mais t'as pas vu parce qu'en fait, il est mort, ouais.
Cool. Moi, en fait, tu sais pas s'il est mort.
Moi, en fait,
sais...
ce que j'ai pas compris, non,
tu
c'est,
ça,
c'est
pour... si tu sais qu'il est mort.
Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que non. Brian, il est pas allé chercher sur son cadavre son téléphone portable. Parce que c'est un expert, après, il pouvait relever après derrière le numéro et remonter derrière.
Thomas, t'aurais réussi à faire tout ce qu'il a fait, Brian, après.
Non, mais je me suis dit que ça allait être ça, la suite logique.
Attends, il arrive déjà pas à courir, il va pas faire un saut de 6 mètres.
Ah oui, mais après, il avait plus qu'à descendre, d'aller chercher tranquillement le cadavre.
Juste avant que Peter meure, au moment où il saute sur le camdar, Brian, il aurait pu le faire aussi. Ouais. Il était là, genre, oh, ça, je vais pas le prendre.
Non, mais ça n'a pas de sens. Le gars, il se fait écraser. L'autre, ok, c'est acté, il est mort. Il repart. Ouais, flashback. Les flics, ils courent plus. Il y a plus rien.
Il se fait écraser par le chauffeur de camion le moins vigilant de Paris.
Oui, parce qu'il est resté quand même. Oui, parce que Peter, il est resté au moins 15 bonnes secondes sur la route.
Sur la route.
Chauffeur, il en a rien à foutre.
C'est clair. Oh, bah,
il est encore en Albanais, putain.
Il veut dire, de toute façon, il veut crever, lui, en fait.
Et puis, c'était pas à l'époque où les téléphones portables avec des écrans. Donc, il était pas en train de regarder un truc. Je sais pas ce qu'il foutait. Mais
il repart au
c'était
ralenti.
Quoi, c'était rien.
C'est clair.
Oh, il y a quelqu'un au milieu. J'ai toujours rêvé. Allez,
non, c'est clair. Non, mais c'est clair que j'ai pas compris pourquoi est-ce que du coup le gars le but, il va pas chercher aucun indice, un portefeuille,
parce
rien.
Il y a
rien
parce qu'il y a les flics qui le poursuivent.
Mais les flics, ils le suivent, on les voit même plus.
Ouais, ça
mais non, mais parce qu'ils sont arrêtés au loin, mais tu vois, il se dit si je reste dans le coin, je vais me faire
continuer. Il repart en marchant, tête baissée.
Il repart marche arrière en marchant.
Franchement, ça n'a pas de sens.
Il retourne dans la voiture qu'il a volée.
Et surtout, deux secondes après, ça enchaîne sur quoi? Bah là, il fait la filature d'un mec. Lambda.
C'est un film écrit par Luc Besson en même temps. Pas trop en demander non plus. Hein.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc là, en fait, retour à la case départ pour Brian parce que la seule piste qu'il avait, c'est la merde. Et du coup, il va aller voir son ancien pote.
Oui, visiblement, il a encore des contacts à Paris. Et donc, il prend
Jean-Claude.
Il prend en filature un gars et puis t'as la vieille scène du le mec est pris en filature, mais il sait très bien qu'il est pris en filature. Donc, lui, il commence le dialogue du comme au bon vieux temps. Comment il lui dit que maintenant il est trop placé à la DST, enfin DGSE ou je sais plus.
À la sécurité intérieure.
Et il lui dit Brian lui dit voilà ma fille s'est fait enlever par des Albanais. Est-ce que t'aurais une piste? Et il lui dit porte de Clichy.
Ce qui encore une fois n'a aucun sens parce qu'on est d'accord qu'on comprendra plus tard que le gars. Du coup, est un bâtard. Pourquoi est-ce qu'il lui donne une vraie piste? Peut-être qu'il se dit, vas-y, autant qu'il récupère sa fille et qu'il dégage.
Bah oui, voilà.
Il en fait, je sais pas en fait. Mais bon, il y a un truc qui est bref. Encore une fois pour hyper logique. Bref, tant pis.
Donc là, direction Clichy chez les putes.
Ça a changé Porte de Clichy. Ce que je vous dis, Porte de Clichy, c'est pas ça. Hein. Mais bon, ça me fait marrer. C'est Puteland en fait.
Alors, le problème aussi, c'est que visiblement, Brian, il a tendance à faire des recrutements au black. Arrivant, il prend un gars. Donc, il doit être minuit, 1h du matin quand même. Et là, t'as un vieux gars avec un espèce de porte-chemise. Brian, il se pointe et le mec, il dit « Bonjour, je suis là pour la petite annonce. » Je me suis dit « Waouh, film, qu'est-ce qui se passe ?»
Je
suis assez stressé, j'aimerais me faire soucier. Avec un accent albanais, s'il vous plaît. Et là, le gars lui dit « Donc ouais, on est d'accord que vous êtes traducteur français-albanais ?» Il dit « Ouais, ok, ça marche. C'est combien l'heure ? C'est temps ? Bah, je vais vous payer 10 heures. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que je dois faire ? Vous attendez dans la voiture. » Je suis à la place du mec, le traducteur, je me dis « Waouh,
ça sent l'embrouille. »
Ça sent le traquenard.
Parce que le quartier est pas fou.
Oui, ça c'est clair. Et donc, résultat, Brian, il décide d'aller aux putes. Alors là, il y a de la pute, hein. Franchement, on va pas se mentir. Et donc là, en fait, le but de Brian, ça va être de monopoliser cette fille de joie pour faire en sorte que le Mac vienne s'énerver.
Il l'embrouille en lui parlant de son compte CPF.
Et puis en plus,
par contre, dans la rue, il y a plein de putes.
Ouais.
Oui.
Partout.
Ouais, ouais.
Genre, ça n'a pas de sens, c'est pas interdit.
Bah, en théorie, si.
À 2008, je sais pas. Parce que ça a 15 ans quand même.
Il y en a au moins 15.
C'est clair.
Partout.
Non, mais surtout, Porte de Clichy, c'est pas du tout Porte de Clichy où ils sont. Mais enfin, bref.
Non, de ouf.
Et donc là, directement, il y a un Mac qui intervient en disant attends, lui, il commence à faire perdre des clients. Donc, et c'était le but de Brian pour que le Mac puisse avoir un contact physique avec lui et il va lui claquer un micro.
Dans l'affaire, il perd 100 balles, mais bon, au moins il pose un micro, il va pouvoir écouter.
Il sort le micro, ouais, non, après là, c'est pas.
Après,
ouais,
tu sais, il avait une mallette d'agent secret, donc techniquement, ça oui. me paraît logique. Après,
par contre, là où il va y avoir un gros coup de chat, c'est que là où tu dis.
Hein. Il lui achète un gros karaoké dégueulasse, et genre, il a un micro tout petit, minuscule, qui lui colle à sa.
Bah, tu sais, après, quand t'es à la CIA, de temps en temps, voilà, tu ressors du matériel,
ouais,
quoi, c'est juste
que,
ça.
Peut-être
quand...
qu'il a détourné du matos, ouais.
Toujours est-il, c'est qu'il retourne dans la voiture, alors là, le scénario va vraiment être sympa avec Brian, parce que Brian, il sort un Tokyo Walkie, il dit au traducteur, il dit écoutez, vous allez tout me traduire de tout ce qui est en train de se passer. Et le traducteur, il dit bah ouais, là il est en train de parler de vous, il dit que grosso modo vous êtes un connard. Et là, bah, il dit que visiblement il doit aller visiter un nouveau chantier parce qu'il a reçu une nouvelle marchandise. On dit oh bah ça va en 2 minutes.
Et puis, c'est pas ça, c'est que et en fait il y a deux trucs.
Tranquille.
Ensuite, il parle du match apparemment Marseille-Lazio, et là ça enchaîne sur ça. Parce que tout ça me fait marrer, il va parler d'un certain chantier, une nouvelle marchandise. On sait pas le lieu,
ouais,
on sait pas où, mais lui c'est bon, il sait où c'est.
Ouais. Bah non, mais parce qu'il le suit.
Oui.
Il suit la voiture.
Oui, il le suit, ouais.
Et puis Vision.
Ah, bah oui.
Non, mais déjà que le film n'est pas intelligent, c'est encore plus compliqué.
C'est pas faux.
Donc là, il le suit. Alors pour le coup, j'étais étonné parce que moi, je pensais que chantier et nouvelle marchandise, pour moi, je me suis dit, ok, la phrase mot de passe. Et là, en fait, quelle fut ma surprise ? Il y a vraiment un chantier. Je me suis dit, oh bah merde.
Oui, c'est vrai, ça n'a pas de sens.
C'est
si par contre, il y a un chantier dans un chantier. Quoi.
Ouais.
Oui,
bah, c'est chantier où t'as pas envie. Quoi,
un préfabriqué de passe, on a
t'as pas envie, en tout cas, quand t'es le père. T'as pas envie de retrouver ta fille là-dedans. Vas-y, qu'est-ce qui se passe,
personne ne va te rendre des trucs comme ça.
Bah, en fait, du coup, tu comprends qu'il y a une file d'attente où des mecs de chantier vont prendre un bout de carton où il y a en gros un numéro.
Ouais.
Et derrière, ils rentrent dans un préfabriqué où t'as 4 rideaux qui sont tirés. Et derrière chaque rideau, bah, t'as une pauvre fille qui est camée et qui attend juste qu'on lui passe dessus.
Est-ce que vous voyez le principe du big deal, le rideau?
Non.
On peut pas.
Gagner quoi?
Et ouais, bon, là par tout. Contre, les mecs qui kennent les meufs là, parce qu'on est d'accord, hein, les nanas elles sont super fin. Donc elles ont encore une seringue dans le bras en plus de ça, c'est vraiment assez hardcore. Et pour le coup, tu te mets à la place de Brian et tu te dis d'un côté, je pense que le mec doit être partagé entre j'aimerais retrouver ma fille comme ça, fin de l'histoire, et en même temps tu te dis je suis pas sûr de
j'aimerais
vouloir
juste avoir un indice et pas le, pas le trésor final.
Et là, ce qui se passe, c'est qu'il repère, en ouvrant plusieurs rideaux, il repère la veste en jean qu'avait sa fille.
Oui, qui, dans une des petites guérites là, de passe, il repère le truc. Et donc, il tabasse gentiment le mec qui était en train de s'affairer sur la pute.
Je n'avais rien demandé, moi.
Et là, il réalise que la meuf en question n'est pas sa fille, ouais. Donc soulagement.
Oui.
Mais il essaye de lui soutirer quelques informations. Elle a l'air d'être dans un espace entre les espaces parce qu'elle n'est pas...
Elle est chargée, quoi.
Elle est très, très chargée.
C'est bonne ou pas ?
Donc, le dialogue ne s'installe pas. Et puis là par contre ça part en carafe parce que derrière il y a les mecs qui interviennent et
font la sécu quoi.
Et là c'est carnage.
Alors
ça
déjà
dans tous les coins.
Dès le début il va éclater 4 Albanais. Allez hop, comme ça c'est fait.
Tu les as tous comptés, j'ai hésité à les compter mais 35. Ouais, il y en a pas mal. Ah pas. Ah, excuse-moi.
35.
Surtout
le film. 35 personnes
dans surtout le film.
Ouais. Et que assez vite ça se transforme en course-poursuite dans ce fameux chantier qui est franchement une sacrée surface quand même. Je sais pas ce qu'ils sont en train de construire mais
Bah, je sais pas, c'est un chantier ou une carrière, moi j'aurais plutôt dit en fait, d'une certaine manière.
Un chantier dans une carrière.
L'un dans l'autre, peut-être.
Par contre, j'ai trouvé, donc voilà, c'est une scène de fusillade parce que quand ils commencent à aligner les Albanais, ça se termine en fusillade. Et ensuite, donc, ils ramènent la fille complètement camée, ils la mettent dans un gamos et ils partent avec pour s'échapper. Bon, j'ai trouvé que la scène-là était très, la scène de poursuite, elle est vraiment à chier.
Alors, c'est pas la scène de poursuite que je trouve, moi, c'est la scène où il se fait tirer avant de mettre la, oui, du coup, la propre prostituée à l'intérieur.
Là, les Albanais, ne savent pas tirer.
Quoi,
dans
en fait.
Tout le long du film.
C'est clair. Il y a juste un moment donné, il va finir par. Bon, bref, on verra plus tard. Mais sinon, tous les mecs qui lui tirent dessus sont au maximum à 3 mètres de lui.
Ouais.
Là, en plus, il y en a 4 qui lui tirent dessus. Hein.
Non, avec des Uzi.
Bon, bah, peut-être pas
après,
3 mètres.
Après, dans la logique du film, le seul qui a reçu un entraînement d'agent spécial,
c'est
lui.
Le seul dans les films qui a un flingue et les autres, ils ont tous des mitraillettes.
Il y en a un qui est censé. Oui,
mais de base, il a même pas de pistolet en plus.
Non, mais la cadence de tir n'a rien à voir avec la précision de ton arme.
Dans un sens, je sais pas, j'ai jamais tiré avec un flingue sur quelqu'un.
Non.
De favelas.
Ouais, bien sûr.
Nous, on a tiré à l'arme à feu. Après, est-ce que j'ai tiré à l'arme à feu sur quelqu'un?
Oh, quel gangster! Il va dans les strip clubs!
On sait très bien
qu'à
plus de 5 mètres, déjà une cible, tu la rates. Hein. C'était pas habitué à tirer. Je pense pas que les mecs jouent de l'Uzi tous les jours de la semaine non plus.
Non, mais peu importe, ils savent viser. C'est bon, il est devant eux. Et puis, de toute manière, vu le nombre de gars qui lui tirent dessus, il a au moins pris une balle. Là, non, rien du tout.
Ils ont jamais joué à Call of, genre?
Putain. C'est clair qu'en tout cas ils ont un mauvais ratio.
Double Kimbo.
Allez, hop là. Moi j'aurais été déjà en tourelle. Hein.
Donc bref, la course poursuite dans la carrière qui est vraiment mal réalisée.
Course poursuite
en fait.
Molle, ouais.
Ouais. Puis, tu sens qu'en fait le seul effet de la course poursuite, c'est juste le gars s'est dit tiens je vais faire trembler la caméra histoire de donner un mouvement, mais c'est nul.
Oh. Avec leur espace.
Oh pff, ouais. C'est... Tout ça pour terminer sur le fait que l'espèce de Mac du début va venir s'empaler sur un tractopelle.
Ouais voilà. C'est voilà.
Ça.
Et meurt.
Et voilà, comme c'est ça, c'est plié.
Donc c'est le boss de milieu de film qui.
C'est ça.
Qui meurt.
Demi-boss.
Et puis il peut emmener sa trouvaille dans un hôtel.
Alors ce qui est marrant, c'est que.
Pour la désintoxiquer en mode express.
Il arrive à l'hôtel et visiblement il connaît le mec de l'hôtel, tu vois. Et moi je me mets à la place.
Il connaît vachement bien Paris, moi je trouve en fait.
Je me mets à la place du mec de l'hôtel qui. Ah bonjour Brian, ça va? Ouais. Et qui ramène une espèce de vieille meuf toute camée. Le mec il va dire alors Brian, hein, on a pas perdu le nord, qu'est-ce que je voyais?
Non, en fait ce qui est marrant, c'est que. Ouais, c'est ça. Ça c'est quand même bien marrant, parce que justement ils sont évités le truc. Comment on va expliquer que Laura fait rentrer une grosse. Enfin, le mec fait rentrer une queue et que le gars réagisse pas. C'est vraiment en mode, vous voulez une chambre? Comme d'habitude. Puis voilà. Puis tu rentres. Ouais.
Deux chambres, pour faire genre en mode, il veut pas dormir avec elle alors qu'il dort avec elle.
Ouais, c'est clair. Donc là, direct, alors je sais pas où est-ce qu'il a récupéré tout le matos.
Pareil, avec le micro. C'est dans la mallette.
Comment sevrer une fille?
J'attendais une réflexion de toi, Thomas, parce que t'avais osé dire.
Ok. Ça, j'avais noté également. Non, okay, ça n'avait pas de sens, moi, en fait. Tous les produits pharmaceutiques, j'ai noté. Pas de sens également. Mais bon, écoute, ça fait avancer le scénario. Je tolère.
Pourquoi pas? Je tolère. Merci.
J'autorise.
Merci, monsieur.
Luc. Bon, je ferme un œil sur cette fois. Hein,
un point pour toi. C'est
vrai. Ah, on sent quand même qu'il a l'habitude des lendemains un peu difficiles. Oui. Parce qu'il a les bons réflexes. La petite intraveineuse.
ouais,
voilà le.
Lui doit travailler à Las Vegas.
Dire que.
Clinique spécialisée pour ça.
Brian, quand c'est ton daron, quand toi tu reviens d'un lendemain de cuite, t'inquiète, il sait te mettre bien. Ouais, il sait te mettre bien. Donc là, voilà, tu sens qu'il va prendre soin de la petite Schmackos afin d'obtenir, bien évidemment, des renseignements sur le fait qu'elle est la veste en jean de Kim, sa fille. Qu'est-ce qui se passe après?
Eh ben, il la laisse infuser avec son truc. Et ensuite, il y a son pote Jean-Claude. Enfin, il s'endort à moitié sur un petit fauteuil. Et il y a son pote Jean-Claude qui l'appelle en disant il faut que je te parle. Et donc, il va lui parler. Et il s'avère qu'il veut l'arrêter et le renvoyer aux États-Unis.
Et ça nous donne ça.
Non, c'est terminé. Mon chef veut qu'on t'arrête et j'ai réussi à le persuader de te renvoyer chez toi.
Air France 001, tu t'en vas aujourd'hui à 14h. Première classe.
C'est offert par le gouvernement français pour service rendu.
Service rendu.
On fait quoi pour ma fille? Je t'ai déjà dit que maintenant j'étais assis derrière un bureau. Je prends mes ordres de quelqu'un dont le bureau est plus grand.
Ça peut pas continuer, 7 morts, 3 personnes à l'hosto, un bâtiment détruit.
C'est vrai qu'il y a Emile Huseble quand même.
Il voulait te mettre l'enfer, j'ai fait du mieux que je pouvais, désolé.
Le pire doubleur.
C'est pas ouf.
C'est sa voix.
C'est sa voix. Il s'est doublé.
Tu peux pas baiser l'État, Brian, tu le sais.
J'essaye pas de baiser l'État. Je veux retrouver ma fille.
C'était qu'une baraque de chantier, pas un bâtiment.
C'est pas faux.
Il est pas là.
Vous l'avez repéré?
Négatif. Parce qu'en fait.
Ça s'est éclaté, ça. Le coup du téléphone Tokiwoki. En fait, ce que je comprends pas, c'est que c'est lui qui appelle Jean-Claude parce qu'il lui donne rendez-vous au parc et du coup, il l'appelle pour le voir avec les jumelles. Mais c'est lui qui passe le coup de téléphone. Comment il peut donner le coup de téléphone et en même temps l'écouter au Tokiwoki sur un autre immeuble?
Parce que t'es pas un agent secret.
Non, mais
ça n'a aucun sens.
Parce que vous n'êtes pas des agents secrets.
Je suis d'accord avec toi.
C'est des agents secrets.
C'est pas des agents secrets.
Donc là, de toute façon, depuis le début, Jean-Claude, tu sentais qu'il était un petit peu bizarre.
Bah non, alors moi ça me paraît tout à fait logique qu'il veuille le renvoyer aux États-Unis.
Oui, oui, mais
le mec est en train de mettre la ville à feu à sang, tu le laisses pas faire.
C'est vrai que le gars en 24 heures, il a fait du boucan quand même.
Moi en fait, je suis à la fois d'accord, mais je me dis bon, le mec est quand même déter, on va peut-être tout faire du coup pour l'aider et ensuite il se cassera en fait.
Ça aurait été plus simple.
Ça aurait été plus simple.
Finalement, Brian, il se fait pas toper par la police et du coup, ça nous donne quoi ?
Eh bien, il retourne à sa chambre d'hôtel,
oui,
où sa compagne est en train de se réveiller.
Oui.
Et il arrive à lui soutirer des informations, donc, notamment concernant l'endroit.
Combien il prend
l'endroit et
ah, pardon. Je
n'ai pas entendu.
Est-ce que tu es à jour dans tes vaccins, ce genre de choses ?
Avec ou sans préservatif ?
Notamment l'endroit où elle a récupéré la fameuse,
balles,
la fameuse veste
la porte rouge,
portée par sa fille. Et donc, elle lui livre une petite information d'une maison, porte rouge, rue de Paradis.
Parce qu'elle dispose aussi de pouvoirs magiques.
Oui, oui, le pouvoir du flashback, encore une fois, hein, qui est partagé par pas mal.
Attendez, bougez pas, je vais piocher dans ma tête. okay,
ça fait des images.
Mais t'as vu, comme lui, quand il se souvient et qu'il rêve, il est en VHS, ouais, en cassette, et elle, elle se souvient plus en flashback.
En vrai, c'est ça sera intéressant, ouais, que par
c'est pas la même génération,
par génération Super 8, VHS, voilà, DVD.
Peut-être que dans 5 ans, ils seront en Snap, ou tu sais, ce sera des Super Snap avec des films.
En Blu-ray. Putain, vous avez des souvenirs maintenant, la jeunesse, incroyable.
Et là, Brian, il va faire ce qu'on appelle un coup de poker. Il y va au bluff, c'est-à-dire qu'il va se faire passer pour un flic.
Incroyable.
Il arrive rue du Paradis.
Non, mais bah, du coup, il arrive, porte rouge, rue Paradis. Mmh. Et du coup, là, il arrive, et puis il y a des gens, et puis il leur dit ouais, je suis flic et tout, je travaille dans le ministère, je sais pas quoi, il leur montre une carte et il vient pour négocier avec le boss.
Ouais.
Et donc, comme par hasard, il tape sur la bonne porte, comme par hasard, il y a les deux mecs qui arrivent. Ouais, est-ce tout, est-ce que vous avez une arme sur vous ? L'arme, vous l'avez dans la main.
Parce que c'est la carte de Jean-Claude,
ouais,
qu'il
je te
a donnée.
Jean-Claude.
Et là, du coup, il rentre. Et là, du coup, il y a plein d'Albanais.
Un nid.
Ouais, on peut dire comme ça.
Un nid d'Albanais. Un nid du paradis.
Un repère, à la limite. Mais...
Ouais, voilà, un repère d'Albanais qui font du coup du trafic humain, finalement.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, il leur dit comme quoi il veut augmenter les prix, je sais pas quoi.
Oui, il tente le bluff du ouais, voilà, on va augmenter de 20%, plus de 10%. Enfin, de 10 plus de 20.
Oui, visiblement, ça a changé.
Ouais. Voilà.
On a changé de personnel à l'agence et donc on a besoin de renégocier les tarifs maintenant.
Oui. Donc c'est là, ça. On est d'accord, il est en full improvisation en fait.
Ah
il
oui,
sait même
oui,
pas
oui,
de quoi il parle.
Ah, mais là, il joue bien.
Je
pense que le scénario lui-même est en full improvisation parce qu'il fallait un prétexte.
Oui, parce que
ouais, va tenter le bluff.
C'est encore plus drôle en VO où le mec arrive et parle en anglais américain. Tu vois, alors que c'est censé être un mec
français.
Ouais. Enfin, ça n'a aucun. Et les gars ne percutent pas du tout. D'autant
que
la
veille, c'est américain.
D'autant que la veille, il y a un gars qui a complètement détruit un chantier
avec
des Albanais dedans. Donc, je pense que l'information a un peu circulé aussi, peut-être.
Et puis, il leur dit, vous l'avez une arme et tout.
J'avais pas totalement réfléchi à ça, mais ouais, c'est clair, bah c'est oui, complètement débile.
Et parce que c'est juste 6-7 heures avant. Donc,
c'est clair.
Il lui dit, vous avez une arme. Et genre, il le fouille pas.
Alors après, il va y avoir un petit coup de génie de la part de Brian et un gros coup de chat de la part du scénario. C'est-à-dire que Brian, le petit coup de génie, c'est quoi ? Il est allé chercher, comment on disait, bonne chance en albanais.
Bah, oui. Tu sais, parce que son traducteur lui a bien laissé un
le
dictionnaire.
Bien sûr. Ouais, ça, donc ouais, ça, c'est le petit coup de génie. Tu dis, ok, ça marche. Alors, le gros coup de chat du scénario, c'est que le gars à qui il va donner le papier, genre, tiens, vous pouvez me traduire ça en français, soit exactement le même type qu'il a eu au téléphone quand sa fille s'est
fait kidnapper. Je pense que comme c'est un agent secret entraîné, au moment où il rentre dans la pièce, ouais, tu vois, il commence à jauger les gens tout doucement et il arrive petit à petit, par élimination, à déterminer, ça doit être lui le chef.
Ah, lui, il fait une grosse partie de qui est-ce ?
Ouais,
qu'il est moustachu ?
C'est ça, ouais. Tu vois, entre celui qui a l'air de moins s'en soucier, celui que les autres regardent quand ils posent des questions, ce genre de... Après, je suis d'accord, c'est pas très bien réalisé, donc tu t'en rends moins compte. Et à mon avis, dans d'autres mains, ça aurait été plus parlant. Mais...
Par contre, c'est efficace, parce qu'au moment où il commence à tendre le papier, on doit dire oh, « Vous pouvez me traduire ça, ce que ça veut dire ?» Et puis le mec, il lui dit « Ça veut dire « bon chance ». Et là, tu te dis « Waouh !» Là, on a repéré le type. Il y a deux solutions. Ou il conserve sa couverture et on va voir ce qui se passe. Ou il rentre en tilt. Le mec rentre en tilt. Il dit ok. Il lui dit cash.
Rentre en tilt. Poker, bien évidemment.
Tu te souviens pas de moi ? Et là, tu dis ah, donc là.
Je t'avais dit que je te retrouverais.
Je t'avais dit que je te retrouverais. Et là, carnage.
Ah, bah là, c'est carnage, ouais.
Ah ouais.
Alors là, c'est là, il démonte tout le monde. Il tue 8 13. Gars. 13 ?
Ah ouais, il en pète 13.
Ah, il y en a 13 dans la
salle. Il y en a 13 dans la salle.
Oh, voilà.
Sauf le fameux qui a dit bon chance.
Oui. En fait, il va péter tous les Albanais de l'immeuble.
Il commence à fouiller les.
Il fait l'état des lieux.
Après, une fois qu'il a buté tous les Albanais, il fait l'état des lieux de l'immeuble pour voir s'il y a encore 2-3 putes qui traînent, notamment sa fille. Et là, il tombe sur qui, Badis ?
Bah, Amanda, la meilleure amie de sa fille.
Celle qui voulait de la teub à Paris.
Ouais, de ouf. Bah, elle en a eu. Et elle est morte.
Et pas que.
Elle est droguée, tu comprends qu'elle est droguée, ouais. Il lui met son pouls et puis tu comprends qu'elle est toute blanche, qu'elle bouge pas.
Bah, perso, fait une overdose. Hein,
je suis pas un agent secret, hein, mais quand je vois l'état de sa gueule, les yeux ouverts, le teint vert, avec du vomi,
ouais.
Bon, pas besoin de mettre les deux doigts sur la gorge.
Elle vient de voir un épisode de TPMP.
Mais tu te rends compte,
ça dénonce.
Mais tu te rends compte en plus que ça existe, ça. Ça doit exister vraiment.
Ah oui, sans doute.
C'est glauque.
Alors, peut-être pas avec des touristes. Américaine à Paris, mais sans doute que ça doit exister.
Par contre, je comprends le gros coup de pression de Brian, parce que de base, il sait que son pote, il lui a dit, gros, t'as 96 heures après, c'est mort. Il sait très bien que Amanda s'est fait kidnapper en même temps que sa fille Kim. Et là, il retrouve Amanda qui est morte. T'es obligé de faire le parallèle en disant, waouh, si elle
sans
est morte.
Sans doute violée en plus. Ouais. Dit,
C'est pas sans doute, c'est sûrement violée. Hein. Oui. Peut-être piquée aussi. Non, c'est sûr. Piquée et violée, Thomas.
Peut-être morte.
Bim, il retourne en tilt et là il va choper le fameux Bonchance, monsieur Bonchance.
Marco.
Marco, ouais.
Et là, la scène qui suit, je l'ai trouvée ultra efficace. Que
celle-là, elle a marqué. Comme c'est un spécialiste un peu des techniques d'interrogatoire, donc il met ce brave Marco sur une chaise, il l'attache sur une chaise, il le réveille et lui dit c'est bon, t'es réveillé parce que j'ai besoin de ton attention, et il lui plante deux clous.
Ah ouais.
De 30 cm dans les jambes.
Dans les genoux, c'est clair.
Et qu'il attache.
Rien que ça, déjà, ça doit bien.
Avec deux pinces crocodiles reliées à l'interrupteur de la cave.
Non, la scène-là, elle est efficace, Badis.
Ah, mais elle est ouf.
Ouais.
Elle est ouf, elle est très très bien.
Et le mec va lui faire connaître EDF.
Là, c'est parti pour une petite séance de Dr Maboul. Hein. Oh, j'ai touché.
C'est ça. Moi, surtout, c'est pas ça. C'est toute sa conversation autour. Tu sais, quand on a mis en place ce truc de torture, on est dans des pays du tiers-monde où, malheureusement, de temps en temps, l'électricité ne fonctionne pas. Et du coup, entre deux prises, on attend 12 heures. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en France. Ça fonctionne bien.
Fais, okay. Alors certes, l'électricité augmente, c'est un peu cher. Laisse tomber les gilets jaunes, tout ça. Mais regarde.
Et là, non, la scène-là, très efficace. Elle fonctionne très bien.
Oui. Oui, et bah, il arrive justement à soutirer des informations à ce Marco, qui fait son show un petit peu au départ,
oui,
coup de
«
je te crache dans la gueule, je vais pas balancer les informations ».
Grosse paire de couilles de Marco, parce que moi, perso, je suis pas sûr que j'aurais tenté le molar.
Non, personne n'aurait tenté le molar.
Après, il brille pas par leur intelligence non plus, parce que ceux d'avant, c'était, je pense qu'ils bossaient chez Ubisoft, parce qu'ils se précipitaient tous sur lui pour se faire buter à la file.
Moi, je veux mourir.
Voilà.
S'il vous plaît, moi le premier.
Oh tiens, le mec vient de se faire buter. Si je courais dans cette direction pour mourir. Mais voilà,
on fait une course, moi contre ta balle. Allez, on y va.
Au moins, ils ont un peu d'aplomb et effectivement, ils résistent.
La facilité du montage, c'est-à-dire qu'ils tuent tout le monde, ils voient la fille et ensuite, encore une fois, coupure et tu le retrouves dans le sous-sol avec l'autre gars.
Il faut que ça aille vite aussi. T'as 1h30. Ouais, hein, 1h30. Après,
ils se sont dit, les gars, c'est pas forcément un super bon film, donc on va faire le plus court possible. Peut-être que ça va passer.
Je pense qu'ils ont été très surpris du carton qu'a fait ce film. Parce que ce film-là a cartonné.
Oui, c'est vrai, je pense.
Moi, je pense que de toute façon, c'est un film d'1h30. Ils se disent, la bonne nouvelle, c'est que sur une journée, on va pouvoir quand même le diffuser pas mal. Donc ça va bien pouvoir tourner en film, au ciné. Donc c'est aussi bien tourné.
Bah, tu me disais quoi sur Liam Neeson quand il a accepté le rôle, Charlie?
Qui pensait que ça allait être directement en DVD et qu'il avait accepté le rôle.
Mais il croyait pas du tout.
Juste
ça sent sa préparation physique, du coup.
Parce que c'était un rôle qu'on lui avait jamais proposé et qu'il avait l'occasion de passer 3 mois à Paris. Et que ça...
Ouais, c'est clair, il l'a fait pour se marier après derrière.
En fait, oui, il l'a fait en mode je vais aller visiter une ville dans laquelle je passe pas forcément beaucoup de temps.
Je suis quasiment sûr que c'est pareil que Denzel Washington pour The Equalizer. Je suis pareil, c'était pour se marier. Il s'attendait pas à ce que ça en fasse 3 ou 4 après derrière.
Ouais, il y a moyen.
Alors là, qu'est-ce qui se passe après?
Donc l'Albanais lâche un nom, celui de
Patrice Sinclair.
Le nom d'un chanteur, on dirait.
Bob Sinclair.
Et il s'avère qu'il connaît pas, enfin il connaît le nom, mais il sait pas qui est cette personne. Oui. Et là, Liam se dit, je vais aller voir mon ancien pote Jean-Claude pour lui soutirer des informations.
Ah, oui.
Et il s'invite au petit dîner du soir.
Oui.
Et puis là-bas.
Le petit dîner du soir.
Là, ça dégénère assez vite. Hein.
Ouais, parce qu'à la base, Suzanne, qui est la femme de Jean-Claude, elle est plutôt contente parce qu'elle le connaît. Brian fait putain, c'est cool. Tu reviens
de vacances
aux États-Unis.
La meuf complètement à côté de la plaque de toute la soirée.
Bête de ouf.
Suzanne, elle comprend pas. Elle dit putain, tu viens des États-Unis pour faire un repas. Trop bien.
Je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Tant bien même que ça m'a fait délirer quand même son mec dit ta gueule, Suzanne, putain. Tu vois pas que t'es à côté de tes pompes.
Ah bah, au moment où elle se fait tirer dessus, c'est la première surprise.
Ah ouais. Ah, la vérité, elle parlait trop bien pour sa gueule.
Jean-Claude, il m'a tiré dessus. Je sais pas si pour le dessert, peut-être l'entrée n'était pas top, c'est ça?
Non, mais pardon, on a grillé les cartouches.
Il se pointe au repas, donc tu sens une petite tension quand même. Jean-Claude se dit ouh, qu'est-ce qu'il fout là? Suzanne est ravie d'avoir
Suzanne
des invités.
Oh, génial!
Le poulet est prêt, va coucher les enfants, on se met à table.
Suzanne, tranquille. C'est le genre de nana qui t'invite les huissiers. Bah, allez-y, mangez, y a quoi? Et le mari arrive, je dis waouh! Le délire, t'as tout dit? Les tableaux, t'as rien caché?
Et donc, Jean-Claude va coucher les enfants. Il fait un petit détour par la salle de bain pour récupérer une arme. Donc, tu te dis, ok, voilà, il y a tension, effectivement. Ouais. ils reviennent, ils commencent à manger, et là, ça part en... Ils lui balancent tout à la gueule. Non, mais je connais la vérité, je sais que t'es un pourri, machin.
Ah non, mais même pire que ça, c'est-à-dire que t'as Suzanne qui commence à dire « Ah bah tiens, visiblement, ton fameux copain Brian, il va aménager à Paris. » Et puis là, t'as Brian qui dit « Ouais, ouais, j'ai visité 2-3 endroits. » Et puis il commence à lui donner les endroits des Albanais, quoi, tu vois. Et puis il commence à dire, on m'a donné un nom, c'est Macon.
Emmanuel Macon.
Emmanuel Macon.
Bien sûr. Excellent.
Tu sais pas c'est qui. Et puis tu sais, t'as Jean-Claude qui dit, non, non. Et puis Suzanne, vraiment dans son dire, mais si Macon, oh là là, toujours stressé celui-là. Donc là, à partir de là, Brian, il dit, ok, ça marche.
Bah, il commence à se prendre la tête. JC sort son arme.
Ouais.
Mais le problème, c'est que ça fait trop longtemps qu'il est derrière un bureau et ouais. Il connaît plus la différence entre une arme chargée et une arme pas chargée.
Ça, c'est vraiment clair.
Le cliché ultime. Et donc, parce que le petit Liam, il a fait un tour dans la salle de bain, il a enlevé les balles déjà.
Ouais.
Voilà. En revanche, il connaît le poids d'une souris, tu vois, parce qu'il est derrière un bureau. Non, ça, c'est franchement, c'est vraiment éclaté au sol. Ça.
Et donc, ça, c'est une souris infrarouge. Il n'y a pas la boule, c'est sûr.
Liam sort son flingue
ouais.
Et du coup, tire une balle dans l'épaule de la seule personne innocente du film.
Et qui en plus n'a rien demandé. Et qui n'est au courant de rien, en fait.
Et
tu
qui
vois.
Avait préparé la bouffe.
Ah ouais, je trouve ça super gratos. Ouais, c'est clair. Alors d'un côté ça te montre qu'il sera prêt à tout.
Ouais,
ça, y a pas d'autre.
En vrai j'ai trouvé que ça fonctionnait quand il shoot
ouais,
le
mec, c'est
pourquoi,
dur.
Pourquoi est-ce qu'il tire pas sur Jean-Claude dans sa jambe en fait, c'est pareil.
Bah oui.
Ça pas sens, en fait.
Pourquoi les gosses ils reviennent pas?
C'est clair. Pourquoi est-ce qu'il c'est à la limite pourquoi
c'est les gosses sont en Paris, ils ont là ça fait c'est chaud c'est dans clair. Le salon donc facile de dormir.
Oh, ils sont encore en train de s'engueuler ça y est.
C'est clair, tu tires sur la au point tu tires sur la meuf, tu dis c'est quoi bah eh réveille tes gosses.
J'imagine que maman sera encore tombée dans les escaliers demain.
Oh, c'est moche.
Et ouais, non, le fait qu'il tire sur la femme, je suis waouh, le
surtout,
mec, il a pas de temps quoi.
C'est la femme la plus sympa en fait, tu vois. Elle était contente de te voir. Tu fais non, et son explication c'est t'inquiète, c'est pas vital. Fais, ah bah merci.
Tu te rends compte que la meuf dans la même soirée, alors qu'elle a fait à bouffer, elle a bouffé un ta gueule de son mari devant tout le monde et elle a pris une balle dans le bras. Et puis là, ouais, t'as Liam, il dit, écoute, la prochaine, elle est dans la tête. Donc, tu vas me donner tout de suite ce qu'il faut comme information. Et là, en effet, Jean-Claude, il va lui donner l'information d'un fameux endroit de bourgeois où il se passe des petites soirées un petit peu particulières.
Parce qu'on est d'accord, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre juste un truc et qu'il arrive juste à lui donner une adresse, quoi. C'est tout, en gros.
Ça, c'est mon tableau Excel.
Je te rappelle qu'une adresse, une adresse pour un mec qui travaille à la CIA, bon, c'est quand même pas très compliqué, à mon avis, de réussir à avoir après derrière une adresse Paris sur Paris. Mais bon.
En tout cas, il lui fallait ça pour l'obtenir. Et donc là, directement dans ce fameux endroit, c'est quoi comme endroit, Badis ?
Et bah du coup, c'est une soirée mondaine avec ouais. Des gens très très riches. Et tu comprends qu'il y a plein de monde. Et puis lui, il arrive, il montre une carte de police et puis au calme, il rentre.
Ouais.
Ah bah attends, c'est une carte de directeur assistant, enfin directeur adjoint de la surveillance du territoire intérieur.
C'est le genre de carte quand tu rentres, c'est sucez-moi la bite.
Moi, je pense qu'il se fait faire juste une fausse carte de police et qu'il rentre.
Non, il l'a piqué à
Jean-Claude. Et il a mis sa photo dessus.
Oui, à sa photo.
Et les mecs sont paniqués, c'est bizarre ce scotch.
Ouais. Excusez-moi monsieur, c'est un post-it jaune avec votre photo marqué à la main police.
Ouais bah alors,
on n'a plus les moyens.
Excusez-moi, c'est imprimé sur un cancer. C'est normal que la photo, hein, il y a un truc différent. Ah non, très bien, pourquoi pas.
Bah parce que je l'ai. Ouais.
C'est collé à la pâte à
elle
fixe.
Est passée à la machine à laver, j'ai dû leur scotcher. Ah oui, bah je comprends, ça arrive tout le temps ça.
Allez-y.
Et donc là, il commence à rentrer et il arrive à s'infiltrer. Et moyennant une castagne avec Alban Lenoir.
Ouais,
Alban
ouais Lenoir, j'étais content de le voir, c'est clair, ça m'a fait marrer.
Il va dans l'ascenseur et l'ascenseur l'amène à la fameuse soirée off.
Au pipe show. Parce que clairement, pour moi, c'est un pipe show.
Non, l'avant aux enchères.
Ouais, c'est ça, mais façon pipe show, tu vois, parce que les mecs sont tous dans une petite.
Qu'est-ce que c'est qu'un pipe show pour les néophytes, Thomas ?
Alors écoutez, souvent.
Parce que t'es une carte de membre, hein, toi.
Non, mais ça ressemble beaucoup à des trucs que t'avais dans les anciens. Je sais pas comment, les trucs de vidéoclub en fait, quoi, en gros. Où tu rentres, t'es dans une cabine privée.
T'es dans des sex shops, tu vois.
Ouais, voilà. C'est ça, dans un sex shop, t'as une cabine privée.
Attends, vidéoclub et sex shop, c'est deux endroits différents.
les sex shops, vidéoclub.
Tes films du dimanche en famille, ça devait être.
Mais parce que lui, il connaît pas les vidéoclubs où tu trouvais des films normaux, tu vois. Pour lui, c'est que non, des films porno.
C'est clair.
Bah, Thomas, viens m'aider à chercher un film.
J'arrive, papa.
Oh non!
Et tu nous as encore ramené Blanche-Fesse et les 7 mains.
C'est pas toi qui aimais les 100 dalmatiens, regarde là ce qu'il te propose. C'est bien le Doberman avec la madame?
Ouais, tout toi, mon fils.
Tu m'appelles quand t'as fini.
Bah du coup c'est ça, c'est dans une forme de pipe show.
Ton vidéo club d'enfance.
Il arrive, il voit un serveur qui descend du champagne. Bon bah le serveur est en fin de tournage, on sait pas ce qui lui arrive mais on pense qu'il le défonce.
Je peux vous aider ?
Oh que oui. Deux secondes après, il y a un mec, il y a une sorte de garde du corps qui arrive, il le descend. il lui met une tatoche, il lui met une taloche.
C'est entre une tatane et une taloche.
C'est une tatoche. C'est une petite. Hein. De toute façon, il lui met juste un coup après derrière. De toute façon, c'est pareil. Il y a deux personnages quand même qui disparaissent.
Il lui donne un coup avec
le plateau.
Le saladier. Ouais. Enfin, bref. Ça n'a pas de sens. Non, mais... Et le gars est mort.
Attends, non, parce que lui bousille. Parce que je pense que c'est lui qui l'assomme au moment où il ressort après.
Mais tu ne tombes pas comme mort.
Ça n'arrive jamais.
Bref, ça n'a pas de sens.
Et du coup, après, il rentre. Et là, il y a un mec qui fait donc. Ils font des enchères en fait sur des femmes et tu apprends donc que c'est des vierges et il y a donc un mec qui les achète, tu comprends, pour son boss qui est chèque et il le menace, il lui demande du coup il y a l'avant-dernière qui passe juste après, il voit que c'est sa fille et là il lui demande
et nous gardons le meilleur pour la fin,
le plus comme par hasard
une américaine.
Franchement, elle ne mérite pas les
millions. En fait, je pense que c'est son seul truc, c'est que c'est une américaine et qu'elle parle, anglais. En fait, je pense que
t'aurais mis moins, toi, Thomas, j'ai l'impression.
Ah, je ne mets pas un demi-million.
Est-ce que tu veux nous dire combien t'aurais payé pour une esclave sexuelle?
T'aurais mis combien, toi?
Je sais pas, 15 balles.
De terre.
Non, après, et comme par hasard, c'est qui achète les femmes vierges? C'est les arts.
C'est ton peuple, Badis.
C'est un film qui dénonce.
C'est parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'influenceuse sur place pour leur chier dessus, alors ils les importaient directement de Paris, tu vois. Là, c'est vrai que les Albanais avaient pris cher dans le film. Là, il y a un petit taquet aux Arabes, parce oui. que c'est Luc Besson en même temps. Oui. Il ne va pas dire que c'est des Européens qui font ce genre de choses.
Surtout que le chèque, on est d'accord, a remporté toutes les enchères. Parce que tu comprends, en fait.
Non, il repart avec deux ou trois, mais je ne suis pas sûr qu'il les ait toutes.
On ne sait pas combien on a eu après.
Bref, tout ça pour dire que là, Liam Neeson, il est en train de voir que sa fille, c'est le dernier lot, et que les enchères montent, et il va avoir le dernier mot avec un demi-million d'euros. Et là, il se dit, bon, nickel, je vais enfin pouvoir récupérer ma fille. Il sort de la pièce et là, il se fait assommer.
Oui.
Et là, c'est compliqué parce que quand il se réveille, il est attaché à un poteau et directement, ça nous donne ça.
Vous êtes qui?
Je suis Daron.
En fait, votre nom n'a pas d'intérêt. Ce qui, par contre, m'intéresse, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu jusqu'à nous.
La dernière fille, je suis son père.
Et je voulais coucher avec.
Oh, bien. Rendez-la-moi.
Oh mon dieu, pourquoi tu fais ça?
J'aimerais sincèrement, je vous assure. Le mec est dans le froid. Super, voyez-vous, j'ai deux garçons et une fille. Mais laissez-moi vous dire une chose, monsieur, qui que vous soyez. Ceci est un commerce. C'est un commerce particulier, vous comprenez, avec une clientèle particulière.
Je paierai.
Ni reprise. Ici, les ventes sont définitives. Ce sont les seules règles que nous ayons en dehors de la discrétion.
D'accord.
C'est la loi du marché.
Tuez-le en silence chez les invités.
Bah alors pourquoi tu le réveilles? Pourquoi t'attends qu'il se réveille? Tue-le!
En fait, ça comprend pas. Ça passe surtout.
Parce que c'est un méchant et il doit montrer qu'il est méchant.
C'est clair, c'est pour ça. Surtout, ils ont tous des flingues. Comment on va le buter? Bon, on va l'étrangler.
Bah oui, ils ont dit silencieusement.
Sachant que t'es dans un.
Thomas fait un effort avec le film parce que depuis le début, j'ai l'impression que t'es dans
une
guerre.
T'es dans une cave au troisième. Tu peux pas prendre un silencieux et te démerder pour réussir à le buter.
Mais tu sais que les silencieux, ça a tenu pas tant que
ça. Ça étouffe.
Mais bon, c'est pas pour défendre Thomas, mais quand tu vois qu'une borne Leclerc arrive à affiner une image, j'imagine que
on est plus dans une incohérence près. Mais le mec le dit. Le mec dit en silence, donc en théorie, tu sors pas ton flingue pour tirer sur
le gars. Je suis d'accord avec toi, Charlie.
Bah oui, on est d'accord.
Là-dessus, on est bon. Alors là, voilà, magie du scénario, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe, Badis?
Les tuyaux arrive sont pas solides. À partir du tuyau avec les mains, et puis là, il les tue tous avec des super pouvoirs. Ça n'a vraiment pas de sens.
On a toujours la petite attache un peu faiblarde du...
Le
coup classique du truc qui attendait qu'à céder, en fait. Ouais, c'est ça.
Pourquoi il l'attache à ça?
C'est vrai qu'il l'attachait à la rambarde à côté, c'était tout aussi simple.
Au pire, tu le laisses les mains dans le dos par terre, tu le braques.
Encore une fois, va me faire croire que là où ils sont, moins 3, alors que tout le monde est défoncé en haut en train de boire du champagne.
Le coup de feu, tu l'entends pas.
Et puis au pire, t'as un coup de feu, il se passe plus rien. C'était sans doute autre chose.
Oui, après 4 coupes dans la gueule.
Puis en plus,
excusez-moi, j'ai pété, ça doit être
pas.
Puis l'autre il se réveille et puis
pas le mille séances sur celui-là.
Surtout je te rappelle que le mec après se réveille, les aligne tous avec des pistolets et puis il sort en mode du truc en mode c'est bon, ça a rien passé. Les autres on n'en a rien à foutre en fait.
Oui, parce que le seul moment où la foule panique c'est quand il y a un macabre dans l'ascenseur.
C'est bien qu'elles n'ont rien entendu avant.
C'est clair.
Non, mais il arrive à tuer tout le monde dans la pièce.
Qu'est-ce qui se passe après Badis?
Pour la 15e fois, la course poursuite dans la rue.
En déambulateur.
Il suit le bateau, c'est-à-dire que tu vois que la fille elle monte dans un un bateau sur la Seine, donc tu sais pas où ils vont. Ouais. Et puis du coup, bah, la course poursuite, d'abord à pied et puis ensuite en voiture, ça n'a pas de sens.
Il est fatigué quand il court.
Ah, il est fatigué de ouf.
Ah, c'est pour ça qu'il y a une voiture. Ouais, ouais. Là, c'est la voiture qui fait le taf après, derrière, je pense. Hein.
Alors évidemment, la voiture, ouais, après, c'est inaudible, hein, comme dans tous les films Besson.
Oui, bien sûr. Après, c'est pas non plus déconnant qu'il montre un peu qu'il fait son âge, quoi. Qu'il est pas tout jeune et que, tu vois, c'est pas.
Ouais, mais t'as envie de dire, vu comment il court, enfin, tout le monde le distance, quoi. Tu vois, prends une voiture directe.
Bah, c'est pour ça qu'il casse les côtes avant de. Avant de courir en général.
Donc là, le but c'est de rattraper un espèce de bateau mouche en fait, hein, c'est ça, grosso modo.
Ouais, à peu près. Ouais.
Une péniche.
Parce que dans ce bateau mouche, il y a un espèce de chèque
qui s'apprête à être.
Qui est Gérard Depardieu local. Il est gros, il est énorme, il est dégueulasse.
Moi je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. Il rend fier la France.
Et oui, lui, il veut de la chair fraîche.
C'est ouais. Ça, lui en fait, il les a payés, il veut les tests direct en fait. En gros, quoi.
C'est bien. Lui, ça, la première expérience des meufs, elle va être hardcore, quoi. Ouais. Parce que c'est le gros dégueulasse là qui va passer dessus.
Après, ça va, elles sont bien, elles sont dans un beau bâtiment,
un petit côté...
sur un bateau.
Je trouve qu'il y a un petit côté un petit peu.
Elles sont droguées juste ce qu'il faut, franchement.
Il y a un petit côté.
Oh frère, je suis en train de voyager sur un gros là.
Pour le chèque, un petit côté Jabba le Hutt, moi, je trouve
ouais,
un petit
oui,
peu.
Gros, quoi. Alors là, Brian, il arrive à sauter sur le bateau.
Oui. Parce qu'il s'était réservé pour cette cascade-là.
Il
parce qu'il ne l'a pas fait au départ à Charles de Gaulle sur le camion.
Pour
mais là,
Peter.
Sur le bateau, il se dit, bon, là, c'est vraiment
allez,
le...
Là, c'est le moment. Fille.
Je suis pas loin de la fin. Oui, là, celle-là, il a le trophée en vue.
Ouais, c'est ça.
Et donc, il saute. Il se fait un petit peu mal à la cheville, quand même.
Oui.
Mais ça l'empêche pas de dégommer.
Tu vois, j'ai bien fait de pas sauter tout à l'heure, putain.
Mais ça l'empêche pas de dégommer les 30 gars qui sont sur le bateau. Pareil, là, c'est carnage c'est aussi. Hein.
Avec une petite scène quand même supplémentaire avec le garde du corps principal du Cheikh, on a le droit à un petit combat au couteau.
Ah, le boss final, moi j'ai dit.
Oui, le boss final, oui, c'est ça. Hein.
Ouais.
Et donc après, il arrive dans la fameuse pièce où il y a le Cheikh qui tient en otage sa fille avec un couteau sous la gorge de sa fille. Et là, t'as Brian qui le vise, qui le braque.
Ouais. Bonne petite technique d'attendre que le mec commence à parler.
Ouais.
Vois,
ouais.
Il attend. Ouais. J'attends juste que tu te déconcentres un tout petit peu. Hop là. Et puis une balle dans le crâne.
T'allais dire un truc là ? Non.
Alors.
Enlevé.
Non, mais pareil, tu vois, ça fait partie où tu dis oh là là, il va y avoir encore un monologue de merde, etc.
Ah,
à peine il essaye de parler, il lui tire une balle.
On lance un ni oui ni non. Non, c'est à peu près ça en fait.
Par contre, je me lance et puis là, je me mets à la place de Kim, tu vois, qui elle a dû entendre un truc arriver au niveau de son oreille et une tête éclatée juste à côté de son oreille, elle dit waouh, le délire. Et là, retour au bercail, retour aux États-Unis.
Bah déjà, sa fille a l'air contente de le voir.
Ah oui.
Elle lui sort pas. Non mais papa, je t'avais dit de pas venir.
Papa, je te promets, je resterai vierge et raciste jusqu'à la fin de ma vie.
Là, c'est bien parti pour.
Ah ouais, c'est
ouais, donc retour au bercail. Donc là, forcément, embrassade. L'ex-femme est très contente que son mari se soit absenté pendant toutes ces années.
Ouais.
Au final, sinon elle aurait plus de fille.
C'est clair.
Moi, ce qui me fait marrer, c'est que le cadavre d'Amanda qui est resté à Paris, on s'en bat les
couilles.
Ouais, franchement.
Pas une pensée pour les parents.
Ouais, c'est clair. Vous savez quoi ? Bon, elle est morte, elle est schmackos là-haut. C'est
puis,
bon, c'est...
Même l'autre, elle devient quoi là ? Celle à l'hôtel là.
Je pense qu'il la libère, à mon avis. Ouais. Après, elle refait sa vie dans le.
Mais de toute manière, ça n'a pas de sens. Il rentre à Paris comme. Enfin, il rentre aux États-Unis comme si de rien n'était. Tout est oublié, il n'y a rien, tout le monde est mort.
Ouais,
enfin, sur un bateau.
Je pense qu'il rentre avec le même avion qu'il arrivait quand même.
En jet privé.
En jet privé. Donc, à mon avis, tu peux partir. Enfin, rentrer et partir
le
du territoire un peu plus facilement.
Il a quasiment buté un sous-préfet aussi. On s'en bat les couilles.
J'imagine, t'es un flic lambda qui commence à dire les gars, putain, en 48 heures, il y a un préfet qui s'est fait buter, il y a des Albanais qui ont éclaté, il y a un bateau. Mouche, il s'est passé une dinguerie avec un chèque. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il y a 15 cadavres sur le truc.
Il y avait une soirée particulière, il y avait des cadavres dans les ascenseurs. Qu'est-ce qui s'est passé en deux jours ?
Et donc, bah ensuite, scène finale où il l'amène chez la prof de chant de la fameuse pop star du début.
Oui.
Voilà.
Tout
et
à fait.
Donc, comme ça, elle va pouvoir s'essayer au chant.
Voilà.
Et en même temps, elle rencontre une de ses idoles.
Final.
Et fin du film.
Et ça s'arrête.
Et c'est ainsi que se termine ce merveilleux film. Et ça va être à notre tour maintenant de le noter. Alors, combien de chocolat on lui donne, Badis ?
Honnêtement, à part la scène du téléphone qui était intéressante, sinon je lui donne 0,5. éclaté au sol. Non, je suis désolé, c'est pas intéressant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un super héros qui est fatigué. C'est bon qu'on l'amène à la retraite, je sais pas. Mais ça n'a pas de sens. Il tue tout le monde, il évite les balles, c'est bon, tranquille. Rentre chez toi. À quelle heure? Appelle les flics. Non, mais tout n'a pas de sens. Non, mais tout n'a pas de sens. Il y a les flics qui viennent pas, les flics ils abandonnent. L'autre il est mort sur la route. Ensuite, il trouve dans sa mallette des trucs pour faire des perfusions. Ça n'a vraiment pas de sens. Je lui donne 0,5.
Moi, globalement, ça fait partie des moins mauvais films que j'ai vus globalement dans cette émission. Je vais lui mettre 3.
Bah, dis qu'on regarde des films de merde,
c'est clair. Enculé, va.
Bah. Ouais, non, mais ça sort.
T'as
de
eu
ça.
Ton niveau de commentaire, toi?
J'ai envie de dire, on a les films qu'on mérite en fonction de ses commentaires. Non, moi, franchement, je dirais, voilà, c'est clair. Tu pouvais t'attendre à un film vraiment pas ouf. Bon, ça donne une très bonne image de la France, donc ouais, c'est clair. 3.
Eh ben, je vais être d'accord avec Thomas. C'est un film qui avait tout pour, wow. Pour être vraiment pas bon. Ouais. Et il s'est passé un petit truc qui a fait que c'est regardable. Déjà, c'est court. Il y a des scènes qui, moi, m'ont marqué. Le fameux monologue de Liam Neeson. Tu vois, ça va vite, c'est rythmé. Après, c'est pas un grand film, on est d'accord.
Ouais, clair,
mais j'avoue que j'ai une petite sympathie pour Liam Neeson. Et puis. Et sa petite 4 dans le... Non, 3 c'est bien, 3 chocolats, ouais.
Ok. Et toi, Thomas ? Je vais lui mettre un 2,5. Je vais lui mettre un 2,5 parce qu'il y a des scènes que... Alors, voilà, le film est ce qu'il est. Il y a des scènes que je trouve ultra efficaces. Le téléphone, on est tous d'accord. La scène du téléphone, elle est mythique. Le coup, il commence à claquer les deux clous là, dans les jambes du gars pour l'interroger. En effet, c'est un film qui est rapide. La fin est chiante. Par contre, la fin, c'est au moment où il trouve sa fille. Enfin, les courses-poursuites sont à chier, etc. Mais je sais pas, le truc se regarde tout seul. Tu te dis, voilà, ça te prend. Donc ouais, voilà, 2,5, c'est pas énorme, mais ça fait le café, on va dire. Alors maintenant, si on devait refaire les catégories...
La meilleure scène, j'aurais mis celle du monologue.
Je pense que tout le monde met la scène.
Voir celle de la torture éventuellement. Même la si scène moi, de torture.
Donc pour toi, c'est la scène du téléphone ?
Ouais, peut-être la scène de la torture. La scène du téléphone.
Les deux clous là ?
Ouais, j'avoue que les deux clous, ça m'avait marqué à l'époque. Où je me suis dit vraiment.
Badis.
Bah à la base, la scène du téléphone. Mais si on devait choisir une autre scène, j'aurais choisi la scène où il arrive chez les Albanais. Et où il parle dans la maison pour négocier les prix.
Ah oui, et qu'il entend le bon chance.
Ouais, voilà.
D'accord, ok, ça marche, Thomas.
Bon, pareil. De toute façon, c'est plus la tirade en fait qui est intéressante, ouais, c'est clair.
Donc la scène du téléphone.
Et toi?
Ouais, pareil, scène du téléphone. Je trouve elle est ultra efficace. Le plan est stylé, ce qu'il dit, c'est canon. Ça passe nickel.
La morale du film. Est-ce que vous avez une morale de ce film?
Oui. Restez vierge et raciste.
Moi, j'ai mis en France. Si tu viens en France, t'es une femme. Cours, ma fille, cours. Et regarde bien surtout ce qu'on met dans ton verre. Parce que t'es pas prête. Hein.
Faites du sport avant de devenir acteur.
Excellent.
Mais il a 60 ans au moment où il
fait. Bah, prenez quelqu'un d'autre alors.
Tom Cruise aurait fait des super scènes de cours, c'est clair. Là.
Bah, que parfois les paranos ont raison et c'est bien malheureux. Et ça me fait vraiment mal au cœur de le dire.
Putain. En tout cas, une bien belle image de la France et de l'Albanie. Franchement.
Et du peuple oriental. voilà. Du peuple d'Agrabah, quand même.
Est-ce que c'est l'apogée de quelqu'un, ce film? Ou de quelque chose? Est-ce que c'est l'apogée de Liam Neeson?
Non.
Dans sa carrière?
Moi, j'aurais dit à la limite l'apogée du réel. Le réalisateur.
Pierre Morel.
Ce qu'il fait, c'est pas mal. Quoi,
c'est le meilleur film qu'il ait fait. Ouais,
bah, clairement. C'est son meilleur, pour moi, c'est son meilleur film après d'ailleurs. Parce que dans ces deux trucs, apparemment, j'ai appris juste avant, je vais pas faire le mec, hein, qu'il avait fait Banlieue 13. Mm-hmm. Je sais pas s'il a fait beaucoup d'autres films après derrière.
From Paris with Love.
Oui.
Ouais, bah donc c'est clairement son
et
meilleur
il
film.
Il a fait Freelance, là, le film qui tourne sur Amazon avec John Cena et je sais plus qui est là.
Est-ce que l'apogée des Albanais au cinéma? Non? Oui? Pas ouf.
Je pense que c'est la meilleure réplique que Luc Besson ait pu écrire.
Ah
oui, je suis d'accord.
L'apogée de Luc Besson au cinéma. Parce que il me semble que son co-scénariste, c'est le mec qui a fait tous les transporteurs et tout. Et c'est un Américain.
Ouais.
Et je crois que c'est un gars qui a fait le flic de Beverly Hills 3 aussi.
Ah, d'accord. Ouais. Bah écoute,
non,
moi,
ou l'arme fatale 3, ou le flic de Beverly Hills, c'est un truc dans ce style.
Moi j'aurais dit l'arme fatale 3, c'est déjà mieux. Hein. Enfin, ouais. Je préfère, pardon. Excuse-moi.
Peut-être le meilleur film Europa.
Ouais,
il y en a eu d'autres. Danny the Dog pour moi est un meilleur film.
Ah bah écoute, peut-être qu'on le.
Bah, ouais, peut-être qu'on le refera, ouais. Qu'est-ce qui a le mieux vieilli? Moi j'aurais dit l'amour d'un père pour sa fille.
Oh, c'est beau.
Ça n'engage que moi.
Moi j'aurais dit Feng Johnson.
Quoi?
L'actrice, son ex-femme.
Ah, Femke Johnson.
Femke Johnson.
Ah ouais, c'est pas mal.
Elle s'en sort bien.
Moi, j'aurais dit Liam Neeson quand même. Mec, Liam Neeson, il a la classe, je trouve.
Ah, mais il faut pas qu'il court.
Moi, j'aurais dit carrément les plans d'image de Paris, parce que tu regardes maintenant Paris sous Anne Hidalgo, franchement, c'est beaucoup plus moche. Non, franchement, j'ai rien trouvé de ouf.
Dis le nancéen.
Et toi, tu dirais quoi? L'anniversaire de la fille.
C'était stylé.
Tu peux le voir dans une scène aujourd'hui.
Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Sur MTV.
Qu'est-ce qui a le moins bien vieilli?
Ah, les scènes de course-poursuite.
Ah, putain, mec.
Ouais, c'est vrai.
Je suis d'accord avec Badis. Les scènes de course-poursuite ont très très mal vieilli. C'est pas beau.
Mais il n'y a pas de course-poursuite en fait.
C'est juste, t'as un mec qui a juste fait trembler ta caméra en fait.
Mais surtout, le truc qui a vraiment mal vieilli, je trouve aussi, c'est la veste à paillettes de la fille aussi.
Même une gamine de 12 ans,
ça,
et tout
ça. Ça fait vraiment vieux,
même,
ça.
C'est pas mal. Même tout, les téléphones portables aussi.
Le radiocassette.
Bah voilà, non mais aujourd'hui avec un iPhone, il la géolocalise parce qu'en 2008, le film est terminé en 30 secondes. Bah voilà, il y a pas de
peste à paillettes avec des roses, etc.
Recasting.
Alors si on devait faire un recasting, tu sais quoi, moi je vais faire un recasting à l'ancienne, c'est-à-dire que allez, années 80, Liam Neeson c'est Thierry Lhermitte. Sa fille c'est Sophie Marceau.
Thierry Lhermitte. Ah ouais, donc 100% français.
Avec Thierry Lhermitte dans les années 80, il a 25 ans. J'aurais bien vu Gérard Lanvin moi dans le rôle. Genre c'est un père français qui va aux États-Unis parce que sa fille s'est fait enlever par un groupe de Mexicains.
Ouais, Gérard Lanvin, tu sais qui va casser. Et sa fille c'est qui du coup?
Oh, l'histoire nulle.
Bah, il faudrait une. c'est exactement l'histoire de Tekken.
Il faudrait. Hola, mochicha! Il n'y a pas de mochicha, tu sais. Oh, ça aurait été François Cluzet. Non, mais attends. Qui que vous soyez. Je vous préviens, je vais vous retrouver.
Mais j'ai pas d'argent.
J'ai pas d'argent.
J'avais les questions sans réponse.
Ah, bah, il en a posé une tout à l'heure, Badis. Est-ce qu'elle est devenir la nana qui l'a sauvée?
Ouais.
Bonne question. Bah, moi,
Ouais, parce qu'elle, aux dernières nouvelles, elle est dans une chambre d'hôtel où plus personne ne paye la nuit, quoi.
Oui, et puis surtout, elle est accro à l'héroïne. Parlons du business plan des Albanais. D'accord. Qui consiste à enlever des touristes.
C'est clair.
Des jeunes touristes dans une ville comme Paris. Moi, déjà, ça me paraît vachement chaud parce que assez vite, ils vont se faire repérer. Oui, et surtout, t'enlèves pas une parisienne.
Pourquoi elle s'en fout que sa meilleure pote soit morte?
Scénario.
Ouais, c'est clair.
Est-ce que le couple de Jean-Claude survit? Ou pas?
Ah oui, putain, c'est pas bête.
Ah oui, elle devient quoi la meuf?
Je veux dire, il l'emmène à l'hôpital. Est-ce qu'elle lui pose des questions?
Et puis même un truc tout con, quand la famille de la femme arrive à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, faut pas voir avec Jean-Claude. Visiblement, la salade était un petit peu trop.
Le poulet était trop cuit. Voilà, c'est quoi la suite de sa carrière?
Les enfants qui sont pas allés à l'école le lendemain. Pourquoi t'étais pas là? Ma mère s'est fait tirer dessus. Oh, ça va raconter, hein. Eh bien, écoutez, c'est ainsi que se termine ce premier podcast de la saison 2. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, c'était le cas. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Salut.
Au revoir. Ciao.
C'est vraiment trop débile, votre truc.
Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe.
Et surtout, n'oubliez pas.
Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
Je veux rentrer chez moi.